Cyberdamis, bonsoir.
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 Pour cet édito, j'ai pensé vous parler des religions, superstitions et autres fables absurdes, du danger grandissant qu'elles représentent en ce début de XXIe siècle. Parler de lois liberticides dites anti-tabac et qui de fait font des fumeurs des parias tellement honnis et culpabilisés qu'ils n'osent même pas, nous n'osons pas protester contre les effets les plus aberrants de ces interdictions. J'ai pensé décrire d'une part le doux regard d'un agneau, ce petit animal que chacun trouve attendrissant au possible, et d'autre part la côtelette rosée, plus ou moins tendre, dans l'assiette, histoire de rappeler que la transformation passe par le couteau sous la gorge, les cris et le sang. Mais là, par égard pour notre invité, Léo, qui élève des moutons, et pour ne pas dévier du thème de la soirée, la bière, la bonne, la locale, la Norseman, dont il est le créateur, j'y reviendrai dans une autre émission. Failli dédier ce modeste billet à José Bové, condamné aujourd'hui à 4 mois de prison ferme pour avoir osé désobéir à des lois idiotes. Revenir sur la complexe affaire des caricatures de Mahomet et le procès fait à Charlie Hebdo par la Grande Mosquée de Paris. Ces deux sujets, en fait, on en parle tout de suite dans la partie magazine. Jus, un peu, à l'instar de Geoffrin, Vivian ou Val. Jus pu rédiger un de ces machins fourre-tout qui veut tout dire et finalement ne dit rien. Comment ça, ça y ressemble ? À force d'hésitation, victime d'aboulisme, je ne rédigeais rien. Radio Apple Pie, émis public numéro 103, je crois, ça tourne. Donc ce soir, nous retrouverons après la partie magazine notre invité Léo, créateur de la Norseman, la brasserie de la Chapelle. Bonsoir Léo.
Bonsoir.
Nous sommes avec Ludo qui clôturera l'émission par sa célèbre chronique de Cinéma Bis.
Bonsoir.
Bonsoir. Avec Pascal pour le polar et la BD comme d'habitude.
Bonsoir.
Les coups de cœur de la quinzaine. Et pour cette seconde édition de Quai des Amphis avec Christian. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Et puis alors surtout, nous sommes ravis de retrouver Letty parmi nous. Bonsoir Letty.
Oui. Je vous préviens, je ne me déshabillerai pas.
Ah, dommage pour les micros.
Par contre, on te passe la parole tout de suite.
Elle était une cliente du bar, une auditrice dans le bar de nos émissions, une amie de tous. Depuis quelques mois déjà, nous ne la voyons plus au bar. Eh bien, c'est fini. Nous ne la verrons plus. Elle s'en est allée. Papou. Nous gardons d'elle le souvenir d'une femme de caractère, à la voix cassée et au cœur énorme. Elle, la grande fumeuse, s'est envolée alors qu'entrait en vigueur l'interdiction de fumer dans les endroits publics. Comble de l'ironie ou juste hasard, ciao Papou.
Merci Letty. Et pour rendre hommage à Papou, tu as choisi qu'on me passe les Flaming Groovies qu'elle appréciait particulièrement.
time now. Well, don't you say it just one more time. Hey, hey. I said, hey, hey. I said, hey, hey. All right. I said, I do believe I hit a man coming. Yeah.
Oh, ah.
Flaming Groovy, c'est donc, comme depuis la rentrée, on aborde cette courte partie magazine avant d'approfondir le sujet de la Norseman avec Léo. On est en train de se dire que, comment il a fauché. Donc on se demandait s'il avait fauté, s'il avait péché, s'il avait pété. Les avis ont été partagés. En tout cas, il a fauché José Bové et c'est pour ça qu'il a été condamné. C'est quand même sa troisième condamnation à de la prison ferme. Ça commence à être un petit peu lourdingue au niveau de pénaliser le syndicalisme et la désobéissance civile. On se disait aussi pendant les Flaming Groovies qu'il n'est pas le seul. Ça, c'est le défaut de l'anonymat. Quelques autres ont été condamnés avec lui, hein, à la même peine de prison aujourd'hui même. On faisait allusion à d'autres candidats. Christian nous disait
oui, j'entendais Besancenot dans l'émission à un aparté qui disait lui aussi il avait
fauché.
Il est passé à travers.
Voilà. Bon, ça, il y a eu. Bon, on va pas refaire l'historique de ça. On espère toujours faire une émission sur les OGM, pardon. Ouais. François Dufour nous avait dit à l'époque qu'il viendrait un de ces quatre à nos micros. Alors François, il serait temps de concrétiser cette promesse. Mais on peut quand même rappeler que. Selon, parce que c'est toujours pareil, les juridictions, selon les tribunaux, certains faucheurs ont tenu à être jugés tous ensemble, et ça s'est fait, et c'était bien, et souvent ils ont été acquittés, enfin souvent, certains ont été acquittés, ce qui est plutôt une bonne chose. Bon, peut-être un certain acharnement sur José Bové. Il y a un acharnement médiatique et d'un certain nombre d'abrutis, je ne vois pas d'autres mots. Je vais en citer quand même quelques-uns, j'aime pas. Dire les noms de ceux que j'aime pas, mais enfin bon, tant pis. On voit que des Jean-François Balmer, des Jean-Louis Murat, des crétins de la bande à Ruquier, qui n'y connaissent absolument rien, mais dans ce qu'on appelle des talk shows, se permettent de dire qu'il est inintelligent, pas du tout cultivé, pas du tout paysan. Enfin, avec un espèce de dédain, moi, ça qui me choque le plus, une espèce de morgue. Il y a un mépris contre José Bové, bon, et que ces gens-là donnent leur opinion, bon, pourquoi pas. Mais qui n'est jamais relevé par personne, quoi. Ça me choque énormément. Ouais. C'est toujours le sujet facile, quoi. On va dire du mal de José Bové, voilà. C'est tout ce qu'on a. Enfin, moi, ce que j'ai à dire sur ce sujet pour l'instant, j'ai dit qu'on aborderait le procès de Charlie Hebdo. Je crois que tu voulais en parler, Ludo. Enfin,
plus ou moins. Non, je te laisse.
D'accord. Bon, moi, non, ça sera très très bref.
Ce que je veux dire par rapport à Charlie Hebdo, c'est bien qu'il y ait des procès. C'est quand même sa fonction normale, Charlie Hebdo. Donc c'est bien qu'il ait des procès. Merde.
Bon, il n'en manque pas. Il
faudra... Ça le fait connaître en fin de compte.
Et puis c'est la fonction première de Charlie Hebdo, c'est quand même d'avoir des choses qui fassent bouger les choses.
Je ne suis pas persuadé que Philippe Val serait d'accord avec toi.
Bon. Je sais bien que Philippe n'est pas d'accord avec moi. Je m'en fous.
Ça participe à une espèce de vague de procès. Qui sont dans une campagne électorale curieuse quand même.
Oui, mais bon, alors il y a plusieurs choses. Ce qu'on peut dire, c'est que personnellement, je ne trouve pas forcément pertinent d'avoir repris certaines des caricatures, sachant dans quel esprit le journal danois les avait sorties en premier, etc., etc. Bon, au-delà de ça, évidemment, liberté d'expression, liberté de la presse, bon, okay, pas de problème. Autre chose gênante, outre que ça soit la Grande Mosquée de Paris, entre autres, il y a aussi l'UOEF qui fait procès. Ce qui est quand même gênant, c'est qu'apparemment, ça a été fortement soutenu par Jacques Chirac lui-même, notre bon président qui, lui, n'est condamné à aucune peine de prison, comme on sait, étant donné que c'est l'avocat de Jacques Chirac qui est parti civil quand même, qui représente les partis civils contre Charlie Hebdo. Donc déjà, voilà, c'est quand même assez choquant. Bon, bah, curieusement, on peut quand même dire que l'homme qui a tenu à créer la représentativité pardon, du culte musulman, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, a quand même envoyé une lettre de soutien à Charlie Hebdo. Bon, pour une fois qu'il n'aura pas fait une connerie. Maintenant, dans quel but il le fait ?
C'est très démagogique.
Voilà.
Non, mais ceci dit, par ailleurs, ça, c'est très important de suivre le procès parce que les débats peuvent être d'une grande pertinence, d'autant plus à l'heure actuelle.
Voilà. Et pour terminer sur ce sujet, je voulais juste dire par rapport à Pascal et à la fonction de faire réagir les gens de Charlie Hebdo. Ça, c'est vrai. Philippe Val a dit, en tout cas, une journaliste qui lui parlait de provocation, elle a dit non, on n'est pas un journal provocateur, on est un journal satirique. C'est quand même une différence. Bon. Sur le coup alors, des caricatures, voilà, alors, j'ai quand même un doute perso.
Et là, Pascal, en bon historien du dessin de presse français, te répondra qu'à l'origine, Charlie Hebdo était provocateur et que Choron, comme Cavana, refusait le terme de journal satirique comme Le Canard Enchaîné, c'était autre chose.
Bon, on sait qu'il y a eu un glissement déontologique. On va pas en remettre une petite couche, non, ça va aller comme ça. Oui, bah, sur le sujet, oui. Donc,
non, le sujet... sur le sujet, alors très. Très éloigné sur la forme. Tu citais tout à l'heure quelques-uns des plus grands éditorialistes de France.
Oui.
Qui parfois s'en mêlent les pinceaux, mélangent tout, partent dans des conclusions et des théories. Mais figure-toi que c'est compréhensible. La lecture de la presse quotidienne peut taper sur le système quand même et entraîner une quasi-paranoïa. Figure-toi qu'après une semaine passée à lire quotidiennement le journal et à être assailli, submergé, voire étranglé sur les articles par rapport à la loi que l'on connaît, on vagabonde d'article en article, on tombe sur extrait du Havre Libre, l'article sur l'hôpital sans tabac. Ou texto, donc explicitation par le journaliste du Havre Libre. Le concept d'hôpital sans tabac impliquant que le personnel doit montrer l'exemple, il paraît assez illogique qu'un soignant rencontre un malade pour lui diagnostiquer un cancer du poumon alors qu'il a lui-même l'haleine chargée en monoxyde de carbone.
Non, c'est pas possible.
Pour tous, ce sera donc la même consigne, cigarette, oui, mais en tenue civile.
Bien entendu. Mais alors, l'haleine.
On croit.
Une tenue civile pour l'haleine.
Alors, on essaie de s'en extraire quand même, on essaie de s'en échapper. Et puis, l'œil rip sur une autre nouvelle qui a pas mal couru les quotidiens nationaux comme régional, qui est l'expansion du marché du bonbon halal.
Bigre,
oui.
Ah, ça existe donc.
Eh oui, figure-toi. Uh-huh. Alors, je cite texto extrait d'un grand quotidien national qui d'ailleurs a fait une belle bourde de journalisme dans la fameuse affaire des caricatures, puisque. Mmh. Alors, on fait un aparté.
Ah bah bien sûr, parce que...
on fait un aparté qui est quand même... je suppose que c'est une bourde, effectivement, mais la fameuse couverture de Charlie Hebdo de Cabu, qui est également incriminée dans le cadre du procès, était une couverture, dirons-nous, très soft et finalement très consensuelle par rapport à ce que Charlie Hebdo aurait pu faire à une certaine époque. Sauf que lorsque ce fameux grand quotidien a cité la couverture la veille, enfin aux alentours de sa sortie, il a tronqué une partie de la... De la dite couverture, en ne reprenant que le fameux c'est dur d'être aimé par des cons.
Ah oui, d'accord.
Bon. Donc, le quotidien en question donc, nous informait qu'un confiseur du centre-ville de Nancy propose depuis le début de l'année des bonbons halal à ses jeunes clients musulmans qui craignent l'utilisation du porc dans la fabrication de friandises. De plus en plus de jeunes font attention à ce qu'il n'y ait pas de porc. Ils s'y mettent petit à petit. Il y a donc un marché. Nous essayons de répondre à une demande, a expliqué à l'AFP, le gérant du magasin de Nancy, que nous ne citerons pas. Alors, il me dira, mais quel rapport
J'allais te le demander,
c'est absolument qu'un rapport.
Si ce n'est... Déjà, tu ne dis pas rapport. Parce que là, c'est franco de peur.
Si ce n'est un certain plaisir oral. Mais pourtant, pourtant subsiste fortement. Comme une sensation oppressante de vieillir à l'ombre d'une société dont littéralité et exemplarité sont les mamelles arides. Croyant et soignant, n'imaginez pas une seconde que votre spiritualité ou l'exercice rigoureux et empathique de votre métier se suffisent à eux-mêmes. Susauté par mégarde d'un ourson pétri d'une gélatine incertaine ou serrer la main d'un patient en lui présentant impudemment vos doigts légèrement jaunis, fait de vous le dernier des hypocrites, voire un dangereux schizophrène auquel on ne saurait se fier. Comportez-vous en modèle, que diable ! C'est l'air du « faites ce que je dis » et ce que je fais, de l'immaculée représentation sociale et de l'autoflicage 24h sur 24. Alors, fini le temps des petits arrangements avec soi, des paradoxes intimes que l'on gérait avec plus ou moins de bonheur, des égarements sensuels, des petites lâchetés auxquelles on succombait avec délice et qui contribuaient au relief de la patte humaine. Pleurons, pleurons le temps révolu des papilles insouciantes. Les bras m'en tombent, enfin pas trop loin, j'espère. J'espère quand même m'en griller une. Mais
C'est très beau. J'ai entendu dans la bouche de Gilles Balbastre quelque chose qui t'aurait plu. Bon, en l'occurrence, il parlait de Moulinex et de gens de gauche qui défendaient le capitalisme et ses lois comme une loi naturelle aussi réelle que celle de la gravitation universelle. Je vous laisse quand même réfléchir à ça. Et donc, cet homme qui te plairait, je pense, a dit que sa mâchoire s'en était décrochée comme le tiroir béant d'une commode. C'est joli aussi, non ?
Hein ? Ah, c'est assez représentatif de
l'image. Je reste quoi ?
Voilà. Avant de passer la parole à Pascal pour sa chronique BD de la partie magazine, et en lui piquant peut-être un jeu de mots, en tout cas, halal ou halal, ces bonbons ne chassent pas les vampires. Voilà, Pascal, ton coup de cœur de la quinzaine, alors, en bande dessinée.
Il en a deux.
Carrément.
Non, mais c'est la même série, vous inquiétez pas. Ah. Ça va pas être trop long, normalement.
Non, donc, non, c'était pour dire que t'avais un cœur d'artichaut.
Ouais, bah oui. Avec des poils dessus, si tu veux. Donc, on va parler d'Ingmar, tome 2, qui vient de paraître, qui s'appelle Crâne Noir. Dessin sur Rudy Spicer. Le scénario Hervé Bourris. C'est paru chez Dupuis dans la collection Expresso, qui est une excellente collection. Ça vaut 9,80€, comme ça on l'aura dit. Hop là,
c'est bien, c'est fait.
Donc Rudy Spicer, c'est un dessinateur scénariste, né à Nice en 74, qui, après une enfance passée au cirque, Rudy arrive, a des rêves plein la tête, forcément, quand tu sors du cirque, il n'y a pas de problème. Et il veut devenir cow-boy agent secret spatial. Donc, dans les cours de récré, il dessine des Dark Vador, il troque des dessins sous le préau, des Astérix et des Lucky Luke plutôt, parce que bon, ça rapporte un peu plus de sous que les autres. Et c'est ce qui paye le plus, effectivement. 1988 à 93, il ne se souvient pas trop, tu vois, parce qu'il a eu de l'acné. Il a surtout dessiné des filles. Donc là, il est un peu zappé à ce moment-là. En 94-97, il étudie la communication, conçoit des logotypes. Vous ne savez pas ce que c'est, moi, les logotypes, je ne sais pas ce que c'est.
Bon, ça doit être un truc moche pour gagner de l'argent, mais voilà. Il faut bien des fois.
Se lance dans le packaging, où il dessine des labradors souriants sur les paquets de croquettes.
Oh.
Ça, c'est certainement plus sympa, mais bon. En 2003, Hervé Bourris, donc son complice, lui propose de faire une BD musicale pleine de chanteuses et de saxophonistes morts. Oh. Il accepte. Dans la foulée, il signe chez Dargaud dans la célèbre collection Poisson Pilote pour faire une série qui s'appelle Stéréo Club avec justement Hervé Bourris. Alors Stéréo Club, c'est une série qui en fait tourne autour de l'univers de la musique. Ils ont décidé de faire une série autour de la musique et de réunir dans un lieu unique le Stéréo Club. Bon, le Stéréo Club, c'est un petit disquaire de quartier où là tous les gens vont parler de tous les styles de musique, etc. D'accord. À chaque fois, l'album tourne autour d'un style de musique.
C'est intéressant.
Et c'est vachement sympa. Voilà les faits les plus marquants pour lui. Hervé Bourris, lui, est né en 74, lui aussi, en Touraine. Il est dessinateur, illustrateur, scénariste. C'est en 80 que lui signe son premier album, Goldorak et les savants de Washington. Mais il faut dire que il fait de l'art plastique. Et son prof d'art classique lui dit « Bon, la BD, c'est pas la peine, c'est de la merde. Donc, tu vas faire autre chose. »
Non, des gens vachement rétro quand même, parce que
ah ouais, bah à l'époque,
le festival d'Angoulême a commencé dans les années 80. Bon, ouais.
Du coup, il se lance dans les études ardentes qui le mènent à être graphiste dans le web. En 2000, il produit le disque du groupe Alonso, dont il fait partie, ce qui facilite les choses. J'ai cherché le disque, enfin le groupe Alonso sur internet.
Rien à faire.
J'ai pas trouvé grand chose. Alors, je sais pas ce que c'est exactement.
J'ai trouvé un coureur automobile, mais
oui, forcément,
pas de platine.
Ouais, bien sûr.
Une chaîne de gare.
En 2002, quand même, il remporte le prix Goscinny pour son premier album chez Les Manuels des Sassiers, dans la collection Tubohu, qui est vraiment très bien, qui était un truc très frais, en fait, qui traite de l'adolescence et de Boris Vian, parce que bon, il y a tous les discours sur les gamins qui lisent Boris Vian et l'amour qu'ils peuvent avoir par rapport à la lecture, par rapport à ça. Donc c'est très intéressant. En 2005, il entame une collection chez Double Expression. Sa série Comics Remix, qui revisite en fait le mythe de super-héros. C'est-à-dire, bon, c'est Mister Machin qui est un super-héros, en fait il meurt. Et sa femme et son fils se retrouvent dans la merde parce qu'ils n'ont plus de moyens d'existence. Donc les responsables en fait des super-héros leur disent bon, on va prendre notre fils en charge, etc.
Ah, ouais, ouais. Ouais.
Donc on va faire qu'elle tienne bien. Sauf que le fiston, il est pas tout à fait il est d'accord, mais bon, ça se passe mal quand même. Parce qu'il s'aperçoit qu'il y a des choses pas très nettes dans la ville. Donc là, c'est deux albums.
Des choses pas très nettes,
oui.
Sur les super-héros.
Ah, oui, bien sûr. C'est-à-dire que bon, son père n'est peut-être pas mort pour n'importe quoi, si tu veux.
Mais ça, voilà. Vous le saurez en lisant.
Voilà.
Comme
donc il y a deux albums de parus à ce jour. Il travaille aussi comme illustrateur pour le journal Le Spirou. Pas mal. Il travaille aussi sur un livre actuellement sur le rock pour les éditions d'Argo. Et donc nous retrouvons ces deux compères sur cette série Inmar. Spicer au dessin, Boris au scénario, parce qu'en fait ils sont tous les deux dessinateurs et scénaristes.
Leur... Ouais.
Et qui est ce mystérieux Inmar? N'est-ce pas?
Alors, c'est quelqu'un qui vient pas du sud.
Ah non, c'est un viking. C'est pour ça que j'ai choisi ce soir.
Bah,
forcément.
Oui.
Donc c'est un viking, l'élu du dieu, des femmes et des éléments. Lors d'une conquête, il tua lui seul plus de 750 innocents. Forcément.
Ouais, sympa, le mec.
Il viola à lui tout seul 53 femmes, dont qui enfanta 53 enfants, qui s'appelaient tous effectivement Inmar. Beau comme leur père, et fort comme leur père.
Qui eux-mêmes violèrent.
Des clones.
Ah non, je déconne en fait. C'est effectivement ce qu'il raconte Inmar aux enfants. Parce que Inmar, en fait, il est pleutre. Il est chétif.
D'accord.
Il a un peu de mal avec les femmes.
Non, justement, il est un peu.
C'est un viking mythomane
aussi,
en fait.
Mais...
Oui, non, mais il n'y arrive pas toujours, quoi.
Ah, il se débarque pas trop mal quand même.
Peut-être
mais,
qu'il y arrive sans les violer.
Mais son
c'est
but
son
dans
côté
la vie,
innocent voilà.
Il fait pas comme les autres. Tu vois, il attend pas d'aller partir en croisade. Ouais. Mais,
il attend que les
expédition.
Autres partent en croisade.
En invasion.
Voilà. Donc ses potes, et notamment son frangin Epson, qui part en expédition pour.
Et lui, il s'occupe de sa femme.
Et lui, il s'occupe effectivement.
Il a les clés des serrures.
Il s'occupe des gamins. Il s'occupe effectivement des femmes du village. Et il s'occupe aussi de sa passion de raconter l'histoire et de surtout la chasse aux maquereux. Qu'il y a dans les oiseaux.
Oh, mais bah c'est pas gentil, les pauvres macareux. Déjà que je crois que c'est les goélands déjà qui leur foutent des pâtés terribles à ces pauvres macareux.
Donc, les chasses avec un filet à papillon.
Ah.
Donc tu vois comment est-ce que ça peut donner comme chasse.
Une fois que tu les aplatis, ça devient des macarons.
Ouais.
Ah, bien joué.
Mais entre deux, bon,
ceci dit,
la cervoise.
Ceci dit, à mon avis, il doit en prendre beaucoup.
Oui.
Surtout, bon, il aime bien les macareux, parce que lui-même a un doudou qui est en macareux. En plus, je suis pas
moi, je suis un peu naïf là-dedans, oui. Mais macareux, ça veut dire quoi, macareux?
Macareux, c'est un oiseau, en fait, qui a
un bec
très gros, noir et blanc, un peu comme les pingouins, mais plus petit que les pingouins.
D'accord.
Et un gros bec.
Ouais, un gros bec, un peu coloré, ouais. C'est très joli. Ça vit sur des falaises, orange, dit François. Oui, je crois que c'est ça. Ça vit sur des falaises, et déjà, quand ils font leur nid, les pauvres. Enfin bon, ça on va pas faire science et découverte et nature toute la soirée.
Une chronique
ornithologique. Ils sont déjà attaqués
mais
par pas mal d'oiseaux.
Sur quel album il y a des dessins des maquereux dedans.
Bon bah voilà, on vous
et
renvoie.
Et il sort en combien de séries? Alors en fin de compte, il y a combien de tomes?
Là, on ne sait pas encore. C'est parti visiblement pour une grande saga, comme c'est les sagas nordiques. Ça
d'accord.
Peut aller très loin.
Ça fait penser à Thorgal, moi un peu.
Ah non, pas du tout. C'est absolument pas Thorgal. C'est
beaucoup
plus
drôle. Non, je sais bien, mais au niveau de la série.
Ah non, j'espère qu'ils s'arrêteront avant Thorgal parce que sinon ça perdra beaucoup de sa valeur à mon avis.
Parce que je crois qu'il y en a 27, hein, je crois, Thorgal.
Ah oui.
29 maintenant même.
29.
Alors 29 pour la première partie parce que je pense que.
Ah, parce qu'il y a plusieurs parties.
Ouais. Bah oui, parce que Rosinski a décidé d'arrêter Thorgal au niveau 29.
D'accord.
Par contre, ça risque d'être repris après par quelqu'un d'autre pour le fils de Thorgal.
Ah oui, en effet.
Ah oui.
Bon, c'est vachement intéressant.
Ça accompagnera des générations d'entre nous.
Ah oui.
Voilà.
Ça va durer des millénaires.
On peut dire, oui, effectivement. En fait, Inmar est le fils de Patroul. le Gaudi, ce qu'on appelle le Gaudi du village, c'est le chef du village, qui s'est pris un coup de hache sur la tête. Et depuis, il a la vivacité d'une huître. C'est-à-dire qu'il est vraiment réduit. Ça.
La quoi d'une huître ?
Vivacité d'une huître.
Ah, la vivacité d'une huître. Ah oui, comme Stevie dans les guignols de l'info.
Voilà, enfin, plein d'autres aussi.
Dans la vie aussi, tu me diras, mais bon. On tient plein.
Donc, Inmar est chétif.
C'est une marque d'huître, Stevie.
Peu travailleur, peu courageux. Et il préfère effectivement au village, rester au village par rapport à ses potes qui partent en expédition.
C'est un sédentaire.
C'est pas forcément sédentaire, mais c'est imprudent quand même, quelque part. Puis il y a les choses qui l'emmerdent, franchement. Quoi. Bon, là. En fait, ce qui l'emmerde surtout, c'est la vision qu'avons typique des Vikings quoi, qui partent à la chasse. Lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Quoi.
Lui, c'est la chasse des filles. Qui,
en plus, il est assez futé.
Tu veux,
oui, bah oui, ce qu'il
chacun son trésor.
En fait, lui, il est plutôt, peace and love, comme quelque part.
Il est plutôt intelligent parce qu'il regarde ses potes, son frère s'en aller à la guerre. Et lui, il lui reste quoi ? Le village, donc toutes les vivres à manger et à boire, et en plus les femmes.
Bah ouais, donc il est quand même futé quelque part, on peut le dire.
Pas courageux, voilà. Mais
dans
futé.
Dans le premier tome, parce que là on parle du deuxième tome, il nous racontait l'épreuve maritime que Ingmar et Epson, son frangin, devaient subir pour décider qui serait le chef de la tribu, parce que l'autre, leur chef, il est complètement azimuté. La mère, elle est gentille, mais les victimes ont du mal à supporter que ce soit la mère qui a repris le flambeau. Donc ils ont décidé de élire un des deux fils chef. Donc il leur impose une épreuve de partir en bateau et de voir qui pourra mieux diriger les marins. Et voilà, ça c'était le premier album, sauf qu'à la fin Ingmar se retrouvait à la baille aux portes du Valhalla quasiment, mais sauvé par un curé gaïque, et le voilà dans le deuxième tome chargé d'accompagner Cunen, la nièce du curé en question, qui doit rentrer au couvent.
La psy, c'est intéressant.
Cuvaine, curé, couvent.
Ça, c'est Ludo avec ses chroniques qui détend sur moi.
Dis-moi, est-ce que tous ces gens parlent une langue morte?
Si on peut dire. Ouais. Donc, il amène la nièce du curé au couvent, et le voyage sera sous l'œil d'un chaperon, une vieille édentée, pas commode, ce qui donne des échanges assez savoureux. Et l'épopée, si tu veux, de cette histoire, c'est lorsqu'ils arrivent dans un village, le village, il vit sous la terreur d'un personnage qui s'appelle Crâne Noir, qui est, pour les villageois, un être maléfique, mi-homme, mi-bête, qui demande des offrandes de la part des villageois. Et est-ce que Ingmar va trouver le moyen de sauver le village de cette malédiction ? Vous le saurez en lisant cet album aussi drôle que le premier, mélange d'histoire, parce que quand même un fond historique est assez marrant, et de délire sans être trop appuyé, parce que Ingmar c'est un super anti-héros quand même quelque part, balancé dans un univers plutôt brutal, rempli de croyances naïves. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a un parallèle aussi avec des choses qui se passent aujourd'hui. Il est très attachant,
Papa
et
Poule.
à l'instar de ses collègues, bon, on a déjà vu Isaac le pirate de Blin chez Poisson Pilote, Lincoln, qui est une série dont je ne vous ai peut-être pas parlé encore jusqu'à maintenant,
non,
qui est un western, c'est vraiment très très intéressant chez Paquet. Et ben, d'ailleurs, les dessins se ressemblent aussi avec ces deux, c'est vraiment dans cette lignée. Donc, laissez vous guider par Ingmar jusqu'au Valhalla de l'humour et par Odin, revenons à nos houblons. Et verser de la bière dans mon casque, s'il vous plaît.
Oh ouais.
Je crois que c'est dans les crânes, moi.
Aussi, c'est pas dans les cornes.
Dans les cornes aussi.
Je suis pas un crâneur, si tu veux. Ouais.
Alors, sinon, cette BD, on peut la trouver où alors ?
Eh ben, vous la trouvez partout.
Dans les bonnes librairies.
Donc, ça s'appelle Ingmar. C'est une série qui s'appelle Ingmar. Il y a deux tomes pour l'instant de sortie.
D'accord.
De Spicer et Boris.
Et ce soir, on peut pas en acheter ?
Malheureusement, non.
D'accord.
C'est dans la collection Expresso de chez Dupuis.
D'accord.
Merci, Pascal.
L'album vaut 9,80€.
Il se trouve que les employés des librairies, les libraires en général, etc., ont eux aussi quand même des loisirs, malgré les efforts du patronat, petit ou grand. Et on en est ravis, d'ailleurs, en ce qui nous concerne, puisqu'on en a un parmi nous.
Voilà.
Ben, merci.
On va écouter le Brassens de la quinzaine avant d'attaquer avec la Norseman, puisque... Attaquer avec la Norseman, bon, en tout cas attaquer le sujet de la Norseman avec Léo.
Ça va mousser.
Alors j'ai cherché, moi aussi, mais hélas, dans ce magnifique coffret dont je vous parle pour la troisième fois, qui s'appelle La Mauvaise Réputation, 3 CD chacun de 20 morceaux, je n'ai rien trouvé de près ou de loin qui fasse allusion à la bière. Donc je ne voulais pas déroger au principe, sinon on aurait pu mettre Brel, ça sent la bière de, de Londres à Berlin, ça sent la bière, qu'est-ce qu'on est bien.
Non, je pense que le mieux, c'est qu'ils viennent à la pelle paille.
Ah, ben voilà. Donc du coup, ben, on l'attend. Du coup, tant pis, on va écouter une excellente chanson quand même, je crois, qui s'appelle Garogori, n'y voyez aucune allusion.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Garogori, tout à coup la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Garogori. Patron de la ménagerie crie t'es perdu, nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fif des deux fuseaux. Garogori. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Garogori. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogori. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Garogori. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Garogori. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogori. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogori.
Voilà, alors donc ça n'est adressé à personne, bien qu'on ait vu passer le gorille. Patron de chez Jo à ce moment-là.
Non, pas le gorille, je ne sais pas, le gorille.
Voilà, alors ouais, cette fois-ci pour de bon, on retrouve Léo.
Oui, bon, en rebonjour.
Rebonjour. Et puis on va parler avec toi de cette passion, enfin je pense que ça en est une.
Pour, curiosité surtout.
Curiosité. Qui t'a amené à créer cette brasserie qui va fêter, je crois, ses 10 ans.
Oui, il faudrait que je fasse quelque chose, mais c'est vrai que j'ai rien prévu encore pour l'instant. Bon, il y a toujours la fête viking, hein, toujours le 16 juin, je fais de la pub.
Bien sûr, puis on va en reparler de la fête viking, parce que c'est quand même quelque chose. C'est sûr que les questions se bousculent, tu as déjà vu, tu as jeté un œil sur notre petite liste.
Oui,
On ne sait même pas par où commencer. Peut-être simplement en te demandant qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, puisque
la première idée qui vient à l'esprit, c'est qu'on parle toujours de la Normandie, les Normands, c'est du cidre. Et c'est vrai que le cidre, il arrive en Normandie au XVIIe siècle. C'était un comte espagnol qui a amené ça. Et voilà, donc la raison pour laquelle que je fais de la bière, parce qu'en fin de compte, les Vikings ont amené de la bière à base d'orge. Et donc voilà, je suis un peu une personne qui essaie d'évangéliser les Normands comme
retour aux sources.
D'une façon voilà, plus pacifiste à la Ingmar que comme d'autres Vikings l'ont fait à une certaine époque,
voilà,
peut-être.
Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà.
Non, mais enfin, je sais pas si tu as envie de parler de ta vie avant la guerre.
Ah, avant, oui, bien
ça,
sûr, il rien de secret, non, bien sûr. Mais surtout, c'est vrai que la première idée, c'était parce que, on parle toujours des Normands, c'était lucide, et c'est vrai que c'est faux. La Normandie a été fondée en 911 par le traité de Saint-Clair-sur-Epte. Donc c'est assez vieux déjà. Ça va bientôt faire un bail.
Alors tout le monde compte dans la tête.
Avis aux mathématiciens.
Donc ma brasserie, je l'ai créée en l'an 1997. Donc 1997, bien sûr. Et sinon, oui, qu'est-ce que je faisais avant de faire la bière? Je travaillais chez L'Oréal. J'étais technicien chimiste.
Ça allait bien.
Tu étais déjà dans la chimie.
Oui, voilà, ouais, voilà, tout à fait.
En quelque sorte.
Donc, dans les produits moussants. Ouais. On les mettait sur la tête, là, on se les met dans la tête.
Voilà.
Donc,
c'était pour de la blonde ou de la brune?
Oui, de la rousse et tout.
Ah, bah oui, il y avait
couleurs.
Déjà. Ouais.
Ouais, déjà, c'est vrai qu'il y a des colorants aussi dans les shampoings. C'est vrai. Moi, j'étais dans les shampoings. Sinon, c'est vrai que je voulais me mettre à mon compte. Et puis, bon, c'est vrai que la bière, j'en consomme beaucoup et ça m'en revenait cher. Et donc c'est pour ça que je me suis mis à mon compte aussi dans la bière parce que ça revient un peu moins cher maintenant. Bon, sinon trêve.
L'expression mise dans la bière.
Ah, la mise en bière, ouais, c'est beaucoup
c'est
plus vieux
tard.
Ça. Ouais, c'est beaucoup plus tard. En fait, quand la mise en bière, c'est un terme gaulois. Hein, c'était mettre dans une caisse. Mais le mot bière, il apparaît dans la boisson au 17e siècle.
Ah seulement.
Ouais, tout à
donc
fait.
Avant c'était cervoise.
Cervoise.
Avant ça s'appelait cervoise, ouais.
Il n'y avait pas d'accord. D'autres que cervoise.
Cerveza, cervoise, cerevisea aussi. La levure de la bière, c'est la Saccharomyces cerevisea. Hein, c'est la levure qui dégrade le sucre de la cervoise. Exactement, Saccharomyces, c'est le sucre. Alors sinon, par quoi je commence? Parce que c'est vrai que...
Est-ce que je peux te demander, puisque oui. dans ce que tu fais de la bière et de la cervoise. Alors, en quoi tu en fais la différence?
La cervoise, c'est tout ce qui est des boissons avant le 17e siècle. Donc, déjà, j'explique un petit peu. Bon, nous, on fait une bière viking, c'est pour ça qu'elle s'appelle la Norseman. Oui. Et si on lit en latin Norseman, ça fait normand, tout simplement. Oui. Donc, ça revient un peu à la création de la Normandie en 911.
Alors, ce que je veux dire par là, c'est.
Attends,
entre
justement.
Oui, les ménettes.
Et donc, la cervoise, c'est de la bière.
Vikings,
c'est de la bière blonde. C'est de la bière blonde, mais il n'y a pas d'houblon.
D'accord.
Ah, voilà.
Alors ça, on va y venir.
Alors ça, c'est tout ce qui est avant le 17e siècle.
D'accord.
Voilà, exactement, c'est ça. Alors pourquoi il met du houblon?
Ah,
bonne question.
Parce que
non,
il
je sais pas, je vous laisse.
Un ingrédient un jour et que ça a été remplacé.
En fait, quand je veux quand même vous expliquer un petit peu, c'est rapidement, simplement surtout. Bon, il faut savoir que l'orge, déjà, c'est cultivé bien sûr en hiver ou en printemps. C'est une orge d'hiver, une orge au printemps. La récolte se fait en juillet, hein, jusqu'à fin juillet. Après, il y a une période de dormance. Alors, ça veut dire quoi dormance? Ça veut dire qu'il faut qu'il dorme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire germer un grain qui est vert. Pour qu'il puisse germer, il faut qu'il soit sec. Donc, c'est pour ça que les semis agricoles se font toujours en octobre. Après, donc, le brasseur, c'est un peu comme un agriculteur, surtout que nous, on est agriculteurs d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on produit notre matière première, donc qui est l'orge, qu'on transforme en bière après. Alors, donc, cette orge-là, le malteur va le faire germer. Alors, lui, il fait germer. Alors, donc, il va le mettre à tremper dans l'eau dans une cuve pendant 3 jours. Donc, le grain va se gonfler en eau. Après, il l'étale sur des plateaux. Et là, il se met à germer. Et une fois que le germe fait 3 mm, ça s'appelle plus de l'orge, ça s'appelle comment? Ça s'appelle du malt.
Du malt.
Voilà, merci.
Bon, voilà. Faut dire qu'on est allé te rendre une petite visite
oui,
l'autre
c'est vrai.
Jour, ça
c'est
nous aide
vrai.
Un peu.
Alors le malt, ça vient d'un mot anglais, hein, ça veut dire malter, ça veut dire remuer tout simplement. Ah. Hein, parce qu'en fin de compte, dans le germe, il y a le petit germe de 3 mm, mais en même temps, il y a des radicelles. Alors donc le grain, comme il est en tas, soit il est à plat, ben, ça fait un tapis, s'il est en tas, ben, ça fait un dôme. Et donc il faut le remuer, sinon ça va s'échauffer. Donc il faut le remuer, voilà. Donc c'est
parce que sinon déjà ça macère et ça commence à faire de l'alcool.
Ça refermente, ouais, c'est ça. Ouais, hein, donc faut pas que s'échauffe. Donc il est remué. Dans le temps, il faisait ça dans les greniers pour la période de dormance, mais sinon les malteurs faisaient ça dans des trucs à plat et donc ils remuaient sans arrêt tous les jours avec une fourche, avec des râteaux. Voilà.
Avant que tu poursuives sur le houblon, je voulais juste te demander depuis quand tu fais pousser toi-même ton orge? Est-ce que c'est récent ou...
Oui, c'est depuis 2001.
D'accord.
Donc oui, c'est vrai qu'on est installé en juillet 97. Donc on était artisan et on s'est installé agriculteur en 2001.
D'accord.
Alors justement, comment c'est venu la différence de commencer comme artisan et d'arriver agriculteur? Parce que vous produisiez votre orge vous-même, donc vous êtes passé agriculteur.
Bon, déjà, on était un peu agriculteur. Déjà, on avait des moutons, on avait une surface de 8 hectares. Et pour être agriculteur à titre principal, dans le statut agricole, il faut avoir minimum 2 hectares.
Hein, c'est ce qu'on appelle... pose problème à de nombreux agriculteurs.
Donc,
qui sont
c'est ce qu'on appelle la demi-SMI, la surface minimum d'installation. Bon, nous, on a un petit peu plus, on a presque 26 hectares. Alors donc, on a racheté des herbages, on a racheté un peu. Et sur ces herbages-là, il y avait du quota de lait. Et donc, maintenant, on traite du lait aussi, d'ailleurs. Ah, mais bon, ça, c'est encore autre chose. On fait notre culture d'orge sur 10 hectares. Donc, on a 14 hectares 50 d'herbe et 10 hectares de surface. Ouais, ça fait 24 hectares 50. Donc, voilà pour l'orge. Donc, cette orge, je viens d'expliquer. Donc, on fait le maltage. Je n'ai pas fini dans le système du maltage. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a... Quand je disais, il faut le faire tremper... Il faut le mettre à plat, il se met à germer, et là, c'est du malt. Mais là, c'est du malt vert. Et pour pas que l'orge, parce que le malt continue à germer, sinon ça donnera de l'orge, eh ben, il faut le torréfier. Alors donc là, on va le torréfier à 60 degrés. Donc c'est de l'air chaud qui passe en dessous. Et là, il est déshydraté, là, il est sec. Et si on l'utilise pur pour faire de la bière, ça donnera une bière blonde. Par contre, si on le torréfie à 120 degrés, ça donnera une bière ambrée ou rousse, suivant la quantité qu'on met dedans. Et si on le torréfie encore au-delà, en température, donc 180 degrés, donc c'est des multiples de 60, hein. Je reviens en arrière, 60, 120, 180. Et là, c'est très torréfié. Donc, c'est du malt noir. Donc, c'est ce qui sert à la bière brune. Ça date de l'incendie de Londres en 1666.
Ah.
Et c'est l'immense incendie. Donc, c'est là qu'est née la bière brune.
Mais, j'aimerais bien que tu développes.
Avant, il y avait 1664.
Avant 1666, effectivement. J'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Parce
c'est un concurrent, celui-là.
C'est une histoire qui n'est pas forcément très connue. Bon, l'incendie de Londres, je ne sais plus le nombre de morts, mais c'est vrai que ça a été assez épouvantable. Est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est passé le... C'était l'incendie? Déjà chez des brasseurs ou...
Ah non, c'était un boulanger qui a créé l'incendie accidentellement. Et il y a eu des milliers de morts, mais en même temps, c'est eu la chance que ça a arrêté la peste, parce qu'il y avait la peste en même temps. Ouais. Donc, voilà. Après, il y a eu tout était cramé dans la ville, et il y avait bien sûr des malteries, des brasseries, et tout ce qui était... Tout était fait dans les villes. Et donc, là est née la bière brune.
Par rapport à ça, ce qui nous intéresse, c'est... Bon, tu parlais tout à l'heure de curiosité. On voit que tu as quand même une vachement grande érudition.
Culture.
C'était déjà quelque chose qui te passionnait? Ou c'est au fur et à mesure en...
Non, curiosité, toujours. Je préfère insister, curiosité. Ouais, ouais. Parce que moi, je crois qu'il y a une différence entre curieux et passionné. Passionné, il ne pense qu'à ça. Curieux, il est intéressé.
Voilà. Plus ouvert sur différents domaines.
Voilà, aussi, ouais. Voilà, exactement, c'est ça. Donc moi, à chaque fois, j'ai un problème, donc je me cultive un peu sur, je me spécialise un peu sur un domaine, puis après ça s'arrête là, disons.
D'accord.
Je vais pas au-delà.
Oui, mais enfin bon, on va le voir au fur et à mesure de l'émission.
Parce que l'on entend.
Ouais, c'est... Il y a quand même du grain à moudre, si je puis me permettre. Bon.
À combien de degrés?
Avant d'écouter le premier morceau de la playlist, alors. Qui n'a pas été choisi par toi, mais qui, je pense, va te plaire quand même. Je voulais juste demander, quand vous êtes deux sur le site, en tout cas...
Oui, on est...
actuellement. Et toi, puis un peu plus maintenant.
Oui, donc il y a un salarié à plein temps, il y a un salarié à mi-temps, il y en a un autre pour les vaches. Et puis, donc, ça fait combien, ça? Donc, ça fait un plein temps, un mi-temps, et un autre pour les vaches qui a travaillé à mi-temps aussi. Donc, ça fait deux temps plein. Et puis, moi et ma femme, donc ça fait...
D'accord.
Ça devient une PME.
Comment?
Ça devient une PME?
Non, pas du tout. pas du tout. Surtout que là, on arrête les vaches la fin de l'année. Là, donc, on va arrêter.
Une meule, alors.
Voilà. Voilà. Deux. Voilà. Non, dans la brasserie, pour embaucher, il faut compter 1000 hectos. Hein. Chaque tranche par 1000 hectos, on embauche un salarié. Voilà. 1000 hectos, ça fait 100 000 litres. Voilà. C'est par rapport pour couvrir les charges, structure et de voilà, pour donner un ordre d'idée.
Ouais, on va y revenir sur le détail. Bon, on écoute le premier morceau. Alors, mesdames et messieurs, certains d'entre vous l'ont déjà acheté ici même, bien qu'il soit sorti il y a seulement une semaine, pour la modique somme de 10 euros. Le disque tant attendu des Fingers in the Noise, dont François Lebas, ici même, à la technique de Radio Apple Pie, avec Zoot et celui qu'on appelle le plus couramment Grand Manu. Groupe créé pour s'amuser et faire des reprises d'excellents groupes anglo-saxons, on va dire. Bon, un album qui, pour des raisons qui seraient longues à expliquer, sort avec un an et demi de retard. Mais le voilà enfin, on écoute le premier morceau.
Inside.
C'est un vrai métier, faire de la radio, disait Léo. Et alors, tu m'étonnes que brasseur, c'est un vrai métier. En attendant, nous écoutions Slaughter and the Dogs. On brasse aussi, c'est vrai. Slaughter and the Dogs, donc voilà, par Fingers in the Noise. Ne vous inquiétez pas, je crois qu'on écoutera l'intégralité de l'album ce soir, c'est-à-dire 7 morceaux. Voilà, voilà. D'ailleurs, Fingers in the Noise, ah non, c'était pas tout à fait ça, mais enfin, quasiment la même formation avait joué sur le site de Léo il y a quelques années.
Oui, c'est vrai. Mais...
lors d'une fête de la psychédélique.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Voilà,
c'est
voilà.
Vrai, c'était la fête de la musique, je crois.
Letty.
En parlant de métier, nous, ça n'en est pas un. C'est un loisir qui nous prend du temps et du bon temps.
C'est presque un apostolat.
Ah, ça sert d'eau.
Ça, ça fait plaisir à Ludo.
Tu montes les mots de la bouche.
Je voulais pas le dire à sa place, mais bon, voilà, tu t'es jeté dessus. Donc, voilà.
Bon, mais bravo.
Toi, d'un métier, donc tu en as un, c'est brasseur. Donc, comment tu l'as appris, ton métier ?
Là, moi, c'est pas, je l'ai pas fait dans les écoles, hein. Je l'ai appris sur le tas, hein, carrément.
Hein, sur le tas d'orge.
Sur le tas d'orge, exactement. J'allais dire une connerie, mais bon.
Non,
j'ai appris, bah, oui, sur le tas directement, parce que. Alors pourquoi j'ai fait de la bière, bon, j'ai expliqué parce que bon, c'est vrai que énormément, mais en même temps, pourquoi que j'aurais arrivé à faire de la bière ?
Eh oui.
Voilà, parce que c'est pas le tout de dire je vais en faire, mais pourquoi que ça marcherait ? Et j'étais persuadé que ça marchait.
Ah, voilà, ça
et
c'est
n'importe
bien.
Qui pourrait en faire une fois que ça marche. Bon. Alors je vais vous expliquer rapidement. Bah, tout simplement, à l'époque des Vikings, donc en l'an 900, même avant, mais en l'an 800, ils faisaient de la bière avec les moyens du bord. Ils n'avaient pas le savoir qu'on a aujourd'hui, et donc ils en faisaient. Ah, donc nous, avec la technique qu'on a aujourd'hui, bon, c'est vrai que j'ai 2 bacs plus 2, j'ai un bac chimie et un bac agroalimentaire, du moins un BTS, plutôt BTS et un DUT. Et,
moi, je cuves.
Ouais, moi aussi, je pensais que c'était des cuves. Moi.
Oui, oui, c'est... mais ça va me servir pour faire la bière après ces trucs-là. Ça me fera faire des bacs d'ailleurs. Mais je veux dire, ça donne une connaissance. Et... mais je ne connaissais rien à la bière. Voilà. Et donc, en potassant quelques bouquins, bon, bouquins de tout genre, et bien, donc, ça ne pouvait que marcher parce que si eux, ils arrivaient à faire de la bière avec les moyens du bord sans connaître la pasteurisation, sans connaître la transformation biochimique, et... parce que c'est vrai que c'est assez complexe. Mais donc ça pouvait que marcher. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti. Puis ça marche. Voilà. Donc
d'accord.
La brasserie, attends, je vais quand même finir.
Ouais,
donc, la brasserie, je l'ai montée avec du matériel de récupération. Donc les bacs, justement, les tanks à lait. Vous connaissez les tanks à lait ? C'est des cuves de refroidissement du lait qui sont mis hors d'usage parce que maintenant les fermes grossissent les unes après les autres. Et donc des cuves de 1000 litres, j'en trouvais plein. Donc toutes cuves de tanks à lait ont été transformées. Donc un tank à lait, le premier c'était un fermenteur, il a pris feu, j'ai dit ce sera cuiseur, donc il a été transformé en cuiseur. Après un autre a été transformé en filtre, un autre a été transformé en fermenteur, puis un autre pour récupérer l'eau chaude. Donc tout est à base de tank à lait, voilà, la première brasserie, parce que c'est vrai que maintenant il y en a deux. Bon la deuxième elle est assez récente, elle a 6 mois, mais là c'est plus du tank à lait du tout. Hein. Mais donc en quoi on pouvait y arriver avec peu de moyens. Donc avec 10 000 francs, donc je me suis installé. Voilà.
Ah oui, voilà, bah justement, c'est l'investissement de départ aussi.
1500 euros pour la nouvelle unité de monnaie. Voilà. Sinon, après, je suis parti avec la recette qu'ils avaient, donc j'ai pris dans les bouquins aussi. Ils utilisaient de l'orge en grain cru à 20% à peu près, hein, donc 20 à 50%. Donc moi, j'en mets entre 20 et 30%. Et donc voilà, je suis parti sur la bière ambrée, blonde, rousse et brune, mais c'est l'ambrée qui marche très fort, disons. Voilà, c'est des bières simples, c'est des bières avec du houblon. Puis après, on a fait des cervoises. Donc les cervoises, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est des bières blondes sans houblon. Donc on en a fait une qui s'appelle Yggdrasil. Alors Yggdrasil, c'est l'arbre de vie hein, chez les Vikings. Vous savez qu'eux, ils vénéraient les arbres. Hein, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils étaient païens. Et pourquoi ils étaient païens ? Tout simplement, Jésus n'a pas eu le temps de faire du commercial dans le nord de l'Europe. Il était débordé déjà dans le sud.
Ah, et puis il est mort jeune.
Ouais, en plus. Donc ils vénéraient les arbres. Alors pourquoi les arbres ?
Il était limité au niveau des disciples, si tu veux aussi.
Comment ?
Il était limité aussi au niveau des disciples.
Ah oui, il n'avait pas assez de représentants.
Ouais, c'est vrai que c'était débordé. Je le plains. Et donc, ils vénéraient les arbres. Alors pourquoi ? Bah parce que bon, c'était leur moyen de chauffage, c'était leur outil de travail, c'était leur bateau, c'était leur le chauffage, c'était leur mobilier. Bref, c'était la base de tout, comme des outils aussi. Donc, le frêne, il se prête bien à tous. Il a un pouvoir chauffant, il est résistant en tant qu'outil. Bon, voilà. Puis en plus, c'est un arbre qui pousse très facilement. Il est très grand. Et en plus, il y a une phrase qui dit dans la légende d'Yggdrasil. Vous savez que l'Yggdrasil, c'est le monde, les guerriers morts au combat, donc avec le Valhalla en haut. Et en bas, il y a les monstres avec les niogres. Et entre deux, il y a le petit écureuil Ragnarok. Et à la fin, il y a une phrase qui dit « Heureux qui se nourrit de la sève d'Hydrasil qui procure la vie éternelle ». Alors justement, la sortie s'appelle Hydrasil. Alors pour que ça marche, il faut en boire une bouteille par jour. Donc c'est des bouteilles de 75 centilitres. Et si ça ne marchait pas, donc c'est une bouteille par jour, si ça ne marchait pas, il faut augmenter la dose, donc, tout simplement.
Voilà, les conseils de Dr. Léo.
Ça, c'est un peu commercial.
Avec ça, on est bien.
Donc, c'est celle qui est filtrée
Filtrée sur faille, ouais, c'est ça, sur branche, ouais, c'est ça. Sur branche et faille. Et
personnellement, je l'ai goûté, je l'ai trouvé vraiment hyper bonne. Quoi,
merci, merci, je vous ai payé cher. Hein, pour dire ça.
Du moins, c'est bon, je
pense. Tu les as payés en liquide. Hein.
Voilà.
Ah, moi, j'ai rien
mis. C'est vrai, c'est hyper bon, c'est un goût vraiment particulier.
Ouais.
Est très très fin en fait au niveau de l'arrière-goût. T'as un premier goût au départ, ouais. Et après t'as une finesse.
C'est une boisson un peu légère déjà. Hein. C'est vrai que c'est pas, elle a pas beaucoup, elle est pas très moelleuse. Pour trouver le goût, c'est très simple. On va prendre une feuille de frêne et on la met dans la bouche. D'abord, c'est ce que je fais aussi d'ailleurs. Et on retrouve le même arôme. C'est très sympa. Voilà.
Moi, je voulais dire que j'ai pas bu chez toi. Hein. Je crois qu'il y a une histoire de châtaigne aussi dans une.
Oui, on fait aussi de la châtaigne.
Ah oui, mais alors on va y venir, hein, parce que.
Les Vikings aimaient la châtaigne, effectivement.
Excuse-moi, excuse-moi, mon cher Christian, mais.
Tu me cherches la châtaigne.
Bah non, mais c'est pour l'instant.
Oui.
J'aimerais quand. Non, bon. Donc la différence entre la bière et la cervoise, parce que après, enfin bon, on va essayer d'aborder toutes les spécialités de la brasserie, mais absolument. Mais on t'a déjà un petit peu coupé, moi probablement, en plus sur le houblon, puisque tu nous disais que justement la différence entre la cervoise et
la bière,
oui. C'est donc, l'introduction du houblon.
C'est ça.
Parce qu'on croit en général que.
J'ai pas expliqué ça. Pourquoi voilà, on met ça. Du houblon d'ailleurs.
Je crois qu'en général.
La personne m'a donné la réponse. Si quelqu'un, une personne m'a parlé que pourquoi on met du houblon d'ailleurs.
Parce que moi je pensais qu'à un moment il y avait un des ingrédients qui avait disparu et que du coup on le remplaçait, non ?
Non, non, la bande de choix que vous donnez comme les grandes lignes de la structure de la bière quand même, il faut savoir que l'orge donne la mousse, l'alcool et le moelleux, donc c'est ce qu'elle appelle la structure. Le houblon lui va donner l'amertume, mais avant il y avait d'autres épices qui donnent d'amertume, hein, l'absinthe donne beaucoup d'amertume, il les utilisait aussi. Il y avait aussi d'autres épices. Il y avait le clergé hein, qui avait la maîtrise aussi sur les épices qu'on appelait les gruits. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Et sinon, il y a l'arôme, c'est fait par la levure. Et, tiens, je vais vous parler un mot sur la levure. Il faut savoir que la levure, il n'y en a qu'une sorte, à la base. Mmh. Hein, la levure de bière, c'est de la levure à fruits. Et à l'époque, en 911, mais en 800 et avant et après, c'était la même levure. Et ils prenaient des fruits. Hein, donc, ils allaient dans les bois. Et donc cette levure, il faut savoir que la levure de bière, c'est une levure à fruits. Il prenait des fruits, donc moisis. Il prenait ce fruit moisi et l'écrasait dans le jus sucré du brassage, parce que le brassage veut dire production de sucre. Et là, ça fermente. Alors il faut savoir que la levure, si elle est cultivée sur la framboise, sur une pomme, une poire, et ainsi de suite, va donner un arôme différent à la bière, bien sûr. Parce qu'en fin de compte, la levure va muter. Donc, c'est ce qui va donner l'arôme. Alors bien sûr, sur le marché, il y en a 350 à 1000 variétés de levures. Bon, moi, j'en ai qu'une dizaine. Mais sinon, on peut avoir des arômes de bière différentes.
Je reviens juste en arrière sur quelque chose que je ne suis pas sûre qu'on le sache tous. Moi, la première, a priori. Donc, la levure, ça veut dire que c'est pourriture, ça veut dire que c'est champignon.
C'est un champignon.
Mmh. D'accord.
C'est un champignon, c'est ça. C'est une moisissure, c'est un champignon. Ouais. Ouais.
Okay. Non, bah, tu sais, hein, bon.
Non, non, là, tout à fait. Non, c'est là, tout à fait. Alors sinon, alors, bon, vous n'avez pas donné la réponse pourquoi on met du houblon. Bah, tout simplement. Bah, il faut savoir que ces bières-là sont très fragiles. Hein. C'est des brasseries anciennes. Il faut savoir que ça date de la préhistoire à aujourd'hui. Ces bières-là étaient fabriquées que de octobre jusqu'à mars. Comme j'expliquais tout à l'heure, pourquoi octobre ? Bah, parce qu'il y a la période de dormance. Donc on peut malter qu'à partir d'octobre. Donc la bière sortira que fin octobre. Hein, il faut quand même 5 semaines pour la sortir. Donc pourquoi fin mars on arrêtera la production ? Bon, en général, il n'y avait que des famines déjà. Donc il n'y avait plus de céréales jusqu'en 1950. Où il n'y avait pas grand-chose. Bon, maintenant, il y a trop de tout, comme disent les gens du coin, dans mon coin. Mais c'est vrai qu'il n'y avait plus de céréales. Mais même s'il restait du céréales dans un sac, admettons. Et on voulait fabriquer des bières ou des cervoises après mars, eh ben, elles étaient ratées. Alors, pourquoi elles étaient ratées ? Ben, parce qu'en fin de compte, à partir de mars, c'est le printemps après. C'est l'explosion de la nature, donc c'est la chaleur augmente. Donc là, il y a les oiseaux, les insectes et autres. Mais surtout, il y a des bactéries. Et surtout, la bactérie qui est embêtante dans la bière, c'est la bactérie lactique. Elle est indispensable pour le fromage parce que c'est elle qui va affiner le fromage, mais dans la bière, on n'en veut pas. Elle adore le sucre aussi, mais bon, c'est une bactérie. Et donc, elle va donner de l'acide lactique. Alors donc, comme c'était une bière ratée pour le brasseur, il va la vendre aux pauvres qui étaient au Moyen-Âge, donc on l'appelait les gueux. Et donc, cette boisson-là s'appellera la gueuse. Voilà.
Voilà l'explication.
Comprends tout maintenant.
Ah, voilà.
Et le houblon ?
Alors pourquoi on met du houblon ? Justement parce qu'il a un rôle bactériostatique. Donc il a un rôle inhibiteur, c'est-à-dire que la bactérie ne veut pas se développer. Donc il abaisse un petit peu le pH. Et puis bon, il a un rôle bactériostatique donc par rapport à son épice. Et donc la bactérie ne se développe, qui se développe plus. Donc, elle ne tournera plus en acide lactique, donc elle ne sera plus une gueuse, disons, elle ne sera plus aigre. Alors, donc, tous les brasseurs vont l'utiliser. Donc, on pourra faire de la bière dans, tout le long de l'année. Parce que là, on va l'appeler bière. Mais pourquoi on va l'appeler bière ? Ben, faut savoir que le houblon, l'origine vient de la mer Noire. Il va passer par la Hollande, l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Il faut voir quand même l'itinéraire du houblon. Et donc, avant d'arriver en France, il faut savoir qu'il n'y a rien d'inconvénient quand même, le houblon. Il rend les boissons très amères. Parce qu'ils en mettaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on en met très peu. Je vais quand même donner des ordres de grandeur. Pour 750 litres de bière qu'on fabrique, nous, dans la vieille brasserie, on met 150 kg à 200 kg d'orge et on met 100 g à 300 g d'houblon. Hein, pour donner un ordre d'idée, eux, ils étaient plutôt à l'ordre du kilo pour faire 750
litres. Ah, ça, c'est extrêmement étonnant. Ouais. Oui, c'est vrai que. Hein.
Donc, comme c'était très amer, en Hollande, on dit bière. En Angleterre, on dit bitter. Et en France, on dit bière.
Eh oui.
Et donc, on ne peut pas appeler bière si on met pas d'houblon. Par contre, s'il y a du houblon dedans, on est obligé de l'appeler bière. Et donc, la législation est toujours en vigueur, parce que si on ne met pas doublon, on ne peut pas l'appeler bien. Le législateur ne sait plus pourquoi, mais...
mais l'historien curieux comme toi le sait.
Voilà.
Voilà. Et nous, du coup, nos audinotes, on l'apprend aujourd'hui. Ouais.
C'est vrai, je l'ai appris à mes dépenses, parce que j'ai eu des problèmes de qualité.
Les dosages, au départ, c'était difficile ?
Alors, tout simplement, bon, j'avais du matériel comme des refroidisseurs, qui évitent justement des contaminations par la bactérie lactique, que je n'avais pas utilisé, qui était dans un coin. Et donc, je refroidissais à l'air libre. Et donc, la première année, à partir de mars, la bière tournait en gueuse. Voilà. Mais il n'était pas perdu.
Ah, parce que ça peut...
Pauvre. Parce qu'il y a beaucoup de pauvres.
Non. C'est
la... servé pour...
Non, je ne l'ai pas mis à l'égout. Je l'ai mis dans une cuve et j'en ai fait du vinaigre de bière. Mais on peut aussi faire un autre produit qu'on en a bu tout à l'heure en apéro.
Du whisky.
Du whisky.
Non, enfin, du whisky, si on peut dire.
Du torboyau.
Le torboyau.
Voilà, ouais, le torboyau. En fait, quand je l'ai distillé, c'est là qu'est né le whisky. Voilà. Alors, j'ai eu des problèmes avec les douanes parce que pour eux, c'était pas possible de faire distiller une bière, ça donnait du whisky. Mais si, toute bière distillée donne du whisky. Voilà.
Donc, les douaniers ont appris.
Voilà, ouais.
Ont appris quelque chose.
Ouais. Comme nous.
Monde.
Alors, donc, c'est un distillateur ambulant qui vient le distiller. Bon, la première année, c'est vrai qu'il n'a pas nettoyé sa lambic. Et donc, c'est le whisky était très calvadé. Donc, il avait un goût de calva à mort.
Quelle surprise. C'était peut-être pas mauvais, remarque, enfin.
C'est très spécial.
Ouais.
Ah. Ça s'est vendu quand même. C'était le premier whisky normand. Donc.
La première année, c'est quand, d'ailleurs, du coup
wow, j'ai distillé en décembre 99. Et pour avoir appellation whisky, il faut qu'il y ait minimum 3 ans de vieillissement pendant 3 ans en food chain. Voilà.
D'accord. Donc, en tout cas, ben, vous ici, dans le bar de l'Apple Pie, et puis tous nos audinotes un peu partout en France et dans le monde, vous verrez bien que le torboyau, il y a une orthographe particulière qu'on vous laisse découvrir, que vous retrouverez à la fois sur le site de Radio Apple Pie et sur celui de la Norseman, qui est très bien fait. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. On va écouter le...
Je voudrais dire juste quelque chose quand même pour expliquer, parce que c'est vrai que le torboyau, il ne le voyait pas écrit. C'est le whisky des dieux normands. Alors on a appelé ça Thor, dieu de la guerre. Et on a créé un dieu qui s'appelle Boyau, parce qu'on dit qu'il faut avoir du boyau, donc c'est un dieu normand qu'on a créé. On dit qu'il faut y avoir du boyau pour le boire. Bon, c'est vrai que pour les autochtones ou les Français comprennent, les étrangers comprennent moins bien, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Hein, voilà.
Parce qu'évidemment, bon, avec ce jeu de mots sur ce qu'on appelle le Thor Boyau, T-O-R-D.
Ouais. Bon, on l'a porté en dérision quand même, le nom.
Pour l'avoir bu, il est excellent.
Merci. Il est excellent et très fin. On y revient juste après le second morceau. On suit carrément. La liste des morceaux de ce nouvel album de Finger in the Noise et hop.
Yeah.
l'excellent premier album de Finger in the Noise, dont je vous rappelle qu'il est en vente ici même pour la somme de 10 €. Ouais. Et pour nos amis audinautes, évidemment, sur Internet, ne vous inquiétez pas, vous le recevrez aussi dès que vous le commanderez. Et là, on écoutait une reprise de Magazine. Voilà, voilà. Nous sommes toujours avec Léo, qui nous fait part de sa science et de sa curiosité, de son...
Modestie, hein, pardon.
qui est très modeste, qui nous parle
donc
de...
Ils sont deux, il y a Léo et sa modestie.
Voilà, voilà, ça fait deux déjà.
Pour parler du travail de brasseur, de...
C'est vrai que brasseur, déjà, ça veut dire quelqu'un qui brasse, hein, déjà. C'est vrai que c'est important. Parce qu'on a deux brasseries, on a une brasserie ancienne, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on a fabriqué avec des matériels de Tancalais, et celle-là, on brasse à la main.
Oui, alors... Bah... Ça serait bien que tu nous l'expliques un peu, parce qu'au fond, on est...
Bah, la cuve est carrée, donc on ne peut pas mettre de moteur mécanique. Donc, on est obligé de brasser à la main.
D'accord.
Et donc, on a produit pendant 9 ans et on est monté jusqu'à 915 hectos avec à l'année. C'est quand même énorme. Hein, donc, c'est une prouesse, parce qu'avec une brasserie de 750 litres, normalement, on ne peut pas dépasser 300-400 hectos. Et là, on a pu monter jusqu'à 915 hectos.
Bon,
là,
donc,
on travaille tous les jours.
Hyper musclé comme ça. Je comprends
mieux
maintenant.
C'est vrai que ça muscle.
Ah non, c'est un boulot terrible. Non, mais ça veut dire que, bon, évidemment, je ne vais pas faire de vanne sur les 35 heures. Parce que, bon, mais je suppose que tes journées, vos journées.
Ah ben, pour fabriquer une bière, il faut 15 heures. C'est long. Ah, ouais. Déjà, donc, on peut faire 35 heures ou 32 heures ou 2 heures par jour. C'est 15 heures, c'est 15 heures. On ne peut pas réduire le temps. Il y a l'aplatissage, il y a le brassage, il y a la filtration, il y a l'ébullition. Et après la fermentation.
Oui, pardon, vas-y.
Donc ça, on peut pas les rater. À partir du moment où on commence, faut pas s'arrêter. Oui, soit on produit pas, ça. Ou on produit. Mais disons,
si tu ne fais pas dans ce temps-là, c'est foutu.
Voilà, c'est
d'accord.
Ça.
D'accord. Je voulais quand même aussi demander quelque chose, parce qu'en fait, il y a une certaine autonomie maintenant, puisque vous faites pousser votre orge.
Oui. C'est une bière fermière d'ailleurs maintenant.
D'accord.
Ça, c'est très rare en France. C'est vrai qu'on doit être trois en France.
Ah oui.
Avoir appellation bière fermière.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on produit la matière première qu'on transforme en bière.
Ouais. C'est un label qui est important, ça, pour vendre
Non, oui, oui, moi je pense que pour le consommateur, il y a la traçabilité. Mm. Mais puis bon, nous, c'est un produit du terroir, bon, ça, voilà, c'est bien. D'accord. On voit dans les champs qu'il y a notre orge, et puis.
Voilà. Non, mais c'est aussi du boulot, parce qu'effectivement, justement, enfin, ça représente quand même pas mal d'étapes importantes.
Oui. Oui, oui.
Celle dont je me demandais si, enfin, par qui elle passait, c'est donc justement la torréfaction. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot juste.
Oui, torréfaction, oui. Oui,
ça se passe
bon
où, ça?
Comme
se passe
le café.
Alors, nous, on produit notre orge, on le stocke dans nos hangars. Après, on fait la période de dormance, c'est-à-dire qu'on fait sécher, on met des gaines dedans et on envoie de l'air, hein, pour le sécher, tout simplement. On met un thermomètre dans le silo. Et puis après, une fois qu'on trouve qu'il est bien sec, on envoie des échantillons au malteur. Et quand lui, il trouve qu'il est correct aussi, donc après, on l'envoie des camions.
Malteur qui se situe où? Toujours le même
Alors, le malteur, maintenant, on fait des appels d'offres dans différents malteries. Ouais. Alors, malheureusement, on ne travaille pas en France, on travaille en Belgique.
Ah bon?
Donc, il faut savoir que la France est le plus gros exportateur de malt dans le monde. Ça, il faut le savoir. On est
d'accord.
Très bien placé.
Effectivement,
des fois, on
pas.
Est mal placé en autre chose, mais là, on est bien placé.
En vente d'armes et en malt. Si ça pouvait, oui. Amis des autorités publiques, développer plutôt le malt et renoncer aux armes de guerre, ce serait pas mal.
Voilà. Mais non, le malt, on est premier exportateur.
D'accord.
Mais ce qu'il y a, c'est que les entreprises sont tellement grosses que nous, on ne peut pas malter chez eux. Parce que nous, on produit des petits volumes, qui c'est quand même 82 tonnes, quand même, c'est pas petit. Mais les silos font minimum 150 tonnes en France. Donc, notre orge, il serait mélangé à notre orge. Et donc, on ne pourrait pas avoir la traçabilité.
Et
donc,
ouais.
On
ne
peut pas. Donc, il faut aller trouver des malteries familiales, comme il reste encore en Belgique. Et là, il y en a plusieurs. Et là, ils ont des petits silos de 30, 50 et 80 tonnes. Et donc, là, on met notre orge là-bas.
Voilà. Donc, bon, maintenant, effectivement, tu parles d'appel d'offres. Donc, ça veut dire que vous commencez à pouvoir vous développer déjà, puis dans le réseau, à commencer à en connaître pas mal. Mais au début, comment ça s'est passé? Comment vous êtes tombé sur le premier malteur? Enfin, je ne sais pas. C'est...
Ah oui, non, bah, au début, j'étais artisan. Donc, j'ai acheté mon orge, dans une malterie.
Ah oui, d'accord. Oui,
et je me suis installé en 2001.
Oui, autant pour moi. Oui.
Je me suis installé en 2001 en tant qu'agriculteur.
D'accord.
Voilà. Et là, j'ai produit mon orge et après, j'ai envoyé en malterie.
Ouais, ouais. Mais il y a eu de la prospection quand même. Enfin bon, c'est quelques années plus tard, d'accord. Mais
prospection au niveau des clients ou au niveau des malteurs?
Non, au niveau des malteurs, oui.
Oh non, c'est très simple. Ça se fait en 2-3 heures, ça. On appelle... Il n'y en a pas tant que ça quand même. Hein.
D'accord.
Il n'y en a que 4 en Belgique et puis c'est très vite fait. Hein. Ils offrent les prix et puis par fax. Moi, je ne travaille pas sur Internet, je travaille que par téléphone et que par fax. Déjà pas mal, puis le courrier, bon, déjà, oui. Il y a quoi s'occuper.
C'est sûr.
Voilà.
Et t'as donc, quand même un site Internet.
Oui, j'ai un site qui a été fait par un gars du Havre, hein, d'ailleurs, qui habite Lillebonne, je crois, maintenant. Je ne me rappelle plus son prénom, c'est... Ben, elle est connue. Voilà. Mais il est souvent à l'appel paille avant, mais je pense que vous devez le connaître.
Bon, oui, j'ai une petite idée. Enfin, c'est peut-être celui qui a réalisé, si ce n'est le site de notre radio, parce que nous, c'est Pierre, et désormais Sylvie, mais je pense que, ouais, malheureusement, je ne connais pas son prénom non plus, mais je crois que c'est celui qui a réalisé le site
JP,
du bar Apple Pie.
Ouais, pas voilà. JP mmh. Ouais, c'est ça.
C'est bien possible voilà. Que ça soit ça.
Ouais.
Ouais. D'accord.
Deschamps, voilà, ça me revient.
Bien joué, oui, bon, ça aurait été dommage. Après, s'il écoute l'émission, voilà. Il va t'envoyer des coups de fil.
Il s'appelle Deschamps en plus.
Ça tombe bien. Ça tombe bien. Voilà, voilà, c'est vrai.
On a parlé, tu nous as dit que...
On n'a pas parlé des salariés encore.
Non, mais non mais...
Les choses qui fâchent, non.
C'était pas de ça dont je voulais te parler tout de suite. Tu disais en fait que quand tu te mettais à faire une bière, il y en avait pour 15 heures. Mais entre le moment où tu commences à faire la bière et où elle arrive en bouteille, il se passe combien de temps?
Bah, disons que pour fabriquer une bière, il faut 14 à 15 heures dans la journée.
Ouais.
Ça, c'est pour qu'elle arrive jusqu'au fermenteur. Une fois qu'elle arrive en... Ouais, je pourrais plus expliquer le brassage, mais bon, il va venir après. Donc là, je vais donner les temps. Donc 15 heures pour fabriquer une bière jusqu'au fermenteur. Après la fermentation, donc on fermente pendant de 1 à 5 jours. Hein, donc nous, on ne fait que des fermentations hautes. Alors oui, je vais peut-être expliquer ce que c'est qu'une fermentation haute. Il faut savoir qu'il y a il y a trois classes de bières. Fermentation haute, fermentation basse et fermentation spontanée. Alors, fermentation haute, c'est des bières qui datent de la préhistoire à aujourd'hui. C'est des bières qui fermentent à température ambiante, qui veut dire fermentation haute. Donc, c'est entre 18 et 25 degrés. Donc, fermente à température ambiante, c'est clair. Fermentation basse, c'est des bières qui sont très récentes. C'est des bières qui ont une centaine d'années, hein, donc vous les connaissez toutes. Donc, c'est Kronenbourg, c'est Stella, c'est Henken, c'est Carlsberg. C'est des bières désaltérantes. Donc, eux, ils font des bières légères et ils fermentent entre 8 et 15 degrés. Donc eux, c'est des bières désaltérantes. L'avantage, c'est qu'ils ont toujours le même arôme, alors que nous, ça fluctue au niveau de l'arôme dû à la levure. Parce que je veux quand même donner encore un ordre de grandeur aussi. Quand nous, on fermente entre 18 et 25, si on fermente à 22 degrés, on aura une bière hyper fruitée. Si on fermente à 18 degrés, on a une bière qui ne sera pas fruitée du tout. Voilà. C'est un peu comme le vin. Le vin fruité, c'est 22 degrés. Le vin non fruité, c'est 18 degrés.
Ah voilà. Oui, il y a des parallèles. D'accord,
voilà.
Ça n'est pas
c'est
ça.
Pareil. Alors que les bières fermentation basse, eux, ont toujours le même arôme. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une centaine d'années parce qu'il faut des gros froids pour maintenir entre 8 et 15. Donc, dit gros froid, dit électricité. Et l'électricité, ça a été créé en 1890 par là, par Thomas, quelque chose.
Il nous fait des cuisses perpétuelles, en fait, Léo, mais bon.
Donc, voilà. Et la troisième classe, c'est la fermentation spontanée. Alors ça, moi, c'est une classe, c'est les bières ratées pour moi. Mais bon, qu'on trouve en Belgique beaucoup, c'est les gueuses.
Ah oui, alors... Ça, raté c'est les... par rapport à ce que tu nous as expliqué
voilà.
Avant. Mais alors pourtant, il y a beaucoup d'aficionados, et j'ose employer ce mot, des gueuses.
Oui.
Mais toi, tu...
Pour moi, c'est une bière ratée, tout simplement, bien sûr.
D'accord.
Mais eux, ils en ont fait un produit, bien sûr. Il faut savoir que sur 100 consommateurs de bière, il y en a deux qui vont aimer la gueuse. Mais la gueuse, il faut aimer. Alors, les Belges, eux, ils vendent au niveau international. Donc, ils vendent beaucoup en bouteille. Donc, c'est vrai que ça se vend bien. Mais en vente pression, ça se vend très mal, la gueuse. Il faut aimer l'acidité, tout simplement. À Rouen, il y a 200 bars, il y a juste un bar où il y a qu'un bar où il y a 17 tirages où il y a un tirage de gueuse. Sinon, il n'y en a aucun bar où il y a un tirage de gueuse. Bon, c'est vrai que maintenant, les gueuses qu'on trouve dans le commerce, c'est plus des gueuses brutes, c'est des gueuses aromatisées avec des fruits comme la cerise qu'on appelle la crique ou la framboise et autres. Voilà. Donc là, c'est plus vraiment des vraies gueuses, hein. C'est des gueuses améliorées, on va dire, adoucies.
Ouais, c'est un petit peu trafiqué plaire à quoi. À un nouveau marché, aux filles, on ne sait pas. Mais...
Voilà. Alors oui, alors pour revenir sur la fermentation, donc il y a la fermentation primaire qui dure 1 à 5 jours, donc la fermentation haute, comme j'expliquais. Et une fois que la mousse est redescendue, parce qu'il y a 20% de mousse, on dit que la fermentation d'alcool est terminée, et là on la met en garde. Alors pourquoi on fait une garde? Tout simplement parce qu'on fait une bière non filtrée, non pasteurisée, donc il faut attendre 15 jours qu'elle décante, la partie trouble, et après on prend la partie claire qui est au-dessus, donc à 15 cm au-dessus. On a un tirage au jus clair. Et là, on en met dans une cuve qui est en hauteur. Et là, on rajoute du sucre. Parce que nous, on travaille en refermentation en bouteille et en fût. Alors donc là, on remet du sucre. Et là, on remplit les bouteilles et les fûts. Et donc là, après les bouteilles et les fûts, ils sont mis en chambre chaude. Pour qu'elle refermente entre 18 et 25 degrés. Pour avoir une pression de gaz. Alors ce gaz-là, c'est nous qu'on va le déterminer. Pardon. Alors donc, pour les fûts, par exemple, il ne faut pas dépasser un bar 5. Donc, s'il y a plus de sucre dans la fermentation primaire, et donc il faudra ajouter 1 g de sucre par litre, ça donnera 0,5 bar à peu près. Donc, si on veut 1 bar 5, on mettra 3 g au litre pour donner un ordre d'idée. D'accord.
Ouais, donc on se rend compte que c'est vraiment une élaboration très sophistiquée quand même.
C'est carrément une science.
Non, c'est pas du tout une science, c'est de dire qu'il faut s'en occuper, disons. C'est... Ouais. Voilà.
Léo, est-ce qu'on dit chaptalisé quand on ramène le sucre?
Alors, chaptalisé, c'est pour augmenter le taux d'alcool. Ouais. Alors, ça, c'est pour le vin. Que nous, en fait, quand on ne cherche pas à avoir un taux d'alcool en plus, parce qu'on fait ce qu'on veut, nous, dans, dans l'alcool. On peut faire des bières à 14 degrés comme des bières à 2 degrés. Donc, nous, on s'en fout de la chaptalisation. Ouais, mais par contre, tout ce qu'on, la refermentation, elle est basée sur le gaz. Parce que nous, on sert un produit gazeux. Donc, il faut une pression précise dans un fût. Comme nous, notre chiffre d'affaires, il est à 80% en pression. Donc, il faut avoir une pression très, très précise. Du moins, on essaye. La bouteille, la pression est un peu plus élevée. Donc, on monte à 2 bars, 5, 3 bars. Donc là, on mettra 5 grammes au litre ou 6 grammes au litre. Voilà. Ça, c'est pour donner un peu les précisions. Si vous voulez en faire ce soir, donc bien retenir.
Voilà. J'aime bien dans les termes, c'est quand tu dis tirage de gueuse, on a l'impression qu'il y a une sacrée colère.
Alors, c'est vrai que moi, les gueux, c'est une vie ratée. Hein. Là-dessus, j'en reviendrai. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est vrai que c'est une vie ratée. Alors, je vous dis pourquoi c'est une vie ratée. Bon, parce que j'ai potassé quelques bouquins. Mais quand j'ai servi, quand la bière, elle a tourné en gueuse, donc en acide lactique, je ne comprenais pas comment elle arrivait d'ailleurs. Et, mais la flouche rembourse, ce n'est pas 30 bars. Les épiceries. Et donc, après, on va dire que c'est raté quelque part quand même. Donc, après, ben, on s'améliore pour qu'elle soit là. Et puis après, on cherche et on comprend. Et après, on cherche la cause. Et puis voilà. Pour que ça se reproduise.
Voilà. Merci pour toutes ces précisions. C'est vrai qu'on aura appris qu'est-ce que c'est chaptalisé, qu'est-ce que c'est la bière de garde, en quoi la gueuse, tu l'avais déjà abordé, est une bière ratée. On va écouter le morceau suivant, puis je crois qu'on va passer à Quai des Amphis, la rubrique de Christian, pour la seconde fois dans Radio Apple Pie. Et c'était un morceau qui ne s'appelait pas C'était bien, pourtant il était bien, et qui s'appelait Flame Thrower Love, et je ne me souviens plus du tout de qui il est. Dead Boys. Oh, comment peut-on oublier les Dead Boys? Voilà, bah merci François en même temps. C'est normal que tu connaisses le morceau, puisque dessus tu chantes et tu joues de la guitare. Voilà, voilà. Et nous retrouvons Christian pour sa seconde version de Quai des Amphis.
Très bien, mais écoutez, je crois que la version Quai des Amphis, ça va être un hommage à un personnage qui fait un sacré boulot au niveau de l'Université du Havre. Et on sait que pour Quai des Amphis, l'intérêt de la rubrique, c'était essayer de voir quels sont les problèmes que rencontrent les étudiants qui sont d'un côté un pied sur le quai d'une gare et de l'autre côté un pied pour aller courir dans l'amphi et s'asseoir et suivre les cours. Et l'opportunité de rencontrer ce personnage qui s'appelle Serge Vidcock, qui est le monsieur handicap à l'université, et forcément pour moi c'était intéressant de savoir qu'est-ce qu'on fait à propos des étudiants qui sont en situation de handicap. On ne dit pas handicapés, ils sont en situation de handicap.
Bien joué.
Autrement dit, comment est-ce qu'on a envisagé de faciliter pour eux l'accès aux bâtiments, aux salles, aux amphis, la possibilité d'assister aux cours, de prendre des notes, la mise en place d'un dispositif pour être évalué au partiel, à l'examen final, comme tout un chacun. Alors, il fallait que ce soit un homme qui ait de l'expérience, et on peut dire que Serge Witkoc, il a derrière lui, je dirais, quelque chose qui a bien marqué l'université, puisque à chaque fois qu'on veut créer quelque chose de définitif à l'université, on crée d'abord une mission. Alors la mission, ça veut dire on se débrouille, on essaie de mettre en place un dispositif, on récupère des heures par-ci par-là, on essaie d'avoir des personnes qui sont bien accrochées à l'aventure, et on va dire que Serge Witkoc, de la mission par exemple où il a été à la tête de l'installation du sport à l'université, c'était une mission, c'était pas gagné, eh bien il en a fait un bébé magnifique qui est le service universitaire des activités physiques et sportives dont on connaît maintenant à la fois, il y a un lieu qui est rue des Midoff avec un gymnase extraordinaire, et quand on regarde les résultats des étudiants qui sont à l'intérieur de l'université, ils sont sur pas mal de podiums nationaux dans les rencontres universitaires. Et ben ce monsieur, il a démarré avec, je dirais, de briques et de broc avec ce qu'il avait. Mais c'est un passionné. Et je vais dire, n'allez pas dire qu'il a hérité cette fois encore d'un dossier avec le bébé et l'eau du bain. Ce serait bête à dire parce que d'abord, il faut savoir qu'Camille Galap, le président de l'université, c'est quelqu'un avec son équipe dirigeante qui a à cœur de faire avancer le dossier pour faire en sorte à ce que les étudiants qui ont une situation de handicap puissent s'intégrer à l'intérieur de l'université. Et je dirais que le bébé avec l'eau du bain, ce serait malvenu puisque Serge Witkoc, il est à l'origine des bébés nageurs.
Ah, on te voyait venir aussi.
voilà, je voulais dire, c'est quelqu'un qui pousse très loin les projets. Et je dirais que c'est un mordu, il n'abandonnera pas la chose. Alors, c'est quelqu'un qui est actuellement sur cette affaire. Et en parlant du bain, bah justement, c'est assez amusant, puisque c'est un sportif, c'est un prof de gym. Hein, ouais. Sa manière d'intégrer les étudiants avec un handicap ou non, bah c'est d'abord de les mettre dans une même aventure sportive. Et l'endroit où l'handicap disparaît parce qu'il y a de la pesanteur, c'est la piscine.
Il les jette à l'eau, quoi.
Voilà, il fait des rencontres d'étudiants, valides ou non, dans les eaux. Il fait des rencontres sportives avec des fauteuils. Donc, le valide s'assoit, il fait du basket ou il fait du badminton.
Ah ouais, c'est super.
Chacun devine la difficulté et je dirais, il retire un petit peu, il change le regard de l'autre. D'accord ? Et la priorité, justement, c'est de changer le regard des autres. Savez-vous qu'il y a actuellement 33 étudiants qui se sont inscrits à la mission d'accueil ? Certainement, dit Serge, il y a des gens qui ne veulent pas le dire, qui cachent, parce qu'il y a des handicaps qui sont visibles et d'autres non visibles. Il y a à l'université des gens qui sont capables d'accueillir comme l'infirmière, le psychologue, il y a un autre personnage d'abord lui son propre bureau qui est installé, qui est bien identifié, mais là s'il dit que on n'ose pas y aller parce que parfois c'est un traitement, je dirais, il y a des problèmes psychologiques pour certains. Mmh. Il y a des étudiants qui sont là dans une grosse difficulté psychologique, ou bien carrément ce sont des cancers. Il y a des traitements lourds. Et le problème que dénonce un petit peu Serge, c'est de dire, parce qu'on ne le sait pas, quand ils sont aux examens, mais ils sont jugés comme s'ils étaient des personnes valides. Hein.
Et est-ce que ça veut dire que certains étudiants préfèrent être traités justement comme tout le monde, malgré leur handicap, ce qui est compréhensible, mais pénalisant pour eux.
On peut le comprendre. Ouais, bien sûr. Alors, lui, son affaire, c'est de mettre un lieu où on peut le rencontrer, mais il a déjà créé aussi des postes de travail. Alors, tant que c'est une mission, ça ne dure que ce que dure une mission. Lui, il veut valider cette aventure pour en faire un service d'accueil Alors, ça s'appellera service universitaire d'accueil handicap s'il arrive au terme de ce qu'il est en train de positionner. Mais je dirais que c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais, il ne lâche pas le morceau. Je suis persuadé qu'il va réussir. Alors, l'université est très jeune et je disais que du côté de la présidence, on lui ouvre, je dirais franchement, toutes les aides possibles. Serge fait partie de l'équipe qui entoure le président de l'université, c'est-à-dire qu'on l'a mis à un poste où on l'écoute attentivement. Alors il faut changer aussi les mentalités autour de lui. À la fois ça vaut pour les étudiants qui font leurs études et à qui on propose du tutorat. Alors certains le font volontiers sans demander une rétribution, parce qu'ils disent c'est tout à fait normal, on a un copain qui est là, on va l'aider, on va lui donner un coup de main. Et puis, on dit quand même que ça prend du temps, donc il est normal qu'il y ait une rémunération. Alors, ça consiste en quoi ? Les tuteurs qui accompagnent des étudiants vont les aider dans la vie au quotidien aussi, en dehors de la vie sur le campus. Il faut savoir qu'il y a des étudiants qui arrivent le matin accompagnés par une famille ou bien qui arrivent avec un ambulancier. Ça suppose qu'on les prenne en charge. Il faut bien vérifier qu'ils ont la clé des ascenseurs parce que malheureusement, on n'a pas fait des lieux d'études de plein pied.
Oui, alors voilà, ça c'est voilà. Justement. Est-ce que la mission va permettre de déboucher sur enfin des infrastructures qui correspondent ?
Alors cette mission... fait un tour. Alors, il n'y a pas de problème quant aux constructions récentes, parce qu'elles elles répondent aux normes. Le problème,
d'accès.
C'est quand on est dans des anciens bâtiments, où là, l'écartement des portes, quand on va vers les amphis, le siège roulant va arriver en haut des sièges, on ne verra pas le tableau, on ne verra pas le prof. Ils essaient de mettre aux normes la situation. Donc, on compense quand on n'arrive pas à parvenir à donner de l'aide, en particulier à Cocrieville. Je crois qu'il y a 7 sièges, 7 fauteuils à l'IUT là-haut. Et c'est justement l'endroit qui a été construit il y a très longtemps.
Oui,
alors, on accorde un tiers-temps aux étudiants pour qu'ils puissent avoir plus de temps, qu'on leur accorde un peu plus de cours, enfin, qu'on les aide. De la même façon, quand ils vont passer les partiels ou l'examen, ils vont bénéficier aussi d'un temps supplémentaire. Et puis, on essaie aussi de faire le regard du côté des professionnels de l'université. Il y a 6% des emplois qui doivent être accordés à des gens qui... Et donc, l'université l'applique.
Ah bon.
Donc, c'est pour vous dire que quand je recherchais un sujet où je me disais qu'entre quai et amphi, après l'association des étudiants étrangers qui avaient des problèmes d'accès, forcément, j'ai pensé immédiatement à ce problème qui était aussi comment faire pour que tous ensemble puissent suivre des études correctement.
Pour essayer de lutter contre une forme de discrimination.
Et je dirais quand même que la seule grosse difficulté, vraiment, elle est à l'extérieur, par l'incivilité des gens qui occupent les places de stationnement des étudiants handicapés ou bien du car qui amène les étudiants. L'incivilité des gens qui laissent traîner des poubelles et qui fait que on fait un gymkhana arriver à l'université. Autre chose aussi, on va dénoncer les crottes de chiens parce que l'étudiant qui arrive avec son siège, il roule sa roue et il s'en met plein les mains.
Ouais, c'est très désagréable.
Alors, certes, aussi dans sa vie quotidienne, il y a quelquefois des magasins
ça patine.
Voilà. Et puis, il y a des magasins où les allées pour aller chercher les courses, on ne peut pas. Je voudrais terminer par un personnage qui m'a marqué, parce que vous le savez, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants depuis presque 20 ans.
Ah, oui.
Et c'est un étudiant américain avec qui je corresponds toujours. Et je vais vous raconter qu'il est arrivé au Havre l'année dernière pour parfaire la langue du coréen. Le coréen.
Ah ouais.
Il arrivait de Chine.
Extraordinaire.
Actuellement, il est en Russie.
À pied.
Il m'écrit. Et c'est un polyglotte. Il domine une quarantaine de langues. Et il a un très, très bon souvenir du Havre. parce qu'il reconnaît que la mission d'accueil que gère Serge Vidcock est de qualité. Mais il se souvient aussi, malheureusement, des difficultés de sa circulation, du gymkhana sur les trottoirs. Il a encore dans sa tête un responsable d'une ZAC Coty qui l'a envoyé paître alors que son fauteuil roulant, parce que je vous le dis, il était en fauteuil roulant.
Ah, voilà.
On imagine quand même ce personnage est plus mobile que vous et moi parce qu'il part d'un pays à l'autre. On parlait de la clé de l'ascenseur tout à l'heure. Quand il était en Chine, il y a des ascenseurs, mais pour économiser l'énergie, on ne met pas l'électricité, et donc il était obligé de monter avec beaucoup de difficultés vers le lieu où il était. Alors, quand il me parle du Havre, il a un très grand souvenir du Havre, mais il a encore quelques bêtises qui lui trottent dans la tête. Et il y en a une qui peut réunir le sujet qui précédait. Mmh. C'est par exemple quand il est dans un logement dit de centre d'œuvres universitaires, eh bien quand il arrive, on lui pompe carrément, il faut qu'il paie 6 mois d'électricité d'avance, parce que comme il est étranger, on a peur qu'il parte sans payer la facture.
Ah oh là là.
Voilà. Donc on dira que salut Serge, je pense qu'il va écouter l'émission. Bon courage, je pense qu'il va mettre en place un service. Et en tout cas, il y a des jeunes gens qui ont fait leur place dans ce campus universitaire, et on en a oublié l'handicap, soi-disant, qu'ils avaient.
Bravo Christian pour cette deuxième version de Quai des Amphis.
Merci.
Yeah.
Et c'est justement sur Lost and Found, ou quasiment, qu'est arrivé Loïc, l'homme qui mixa ce fabuleux album The Finger in the Noise. Il est là, et oui. Et c'est, je crois, le petit cousin ou quelque chose comme ça de
c'est
Christian.
Mon cousin.
Voilà.
Petit cousin, non,
c'est
raison.
Ton petit cousin. Et c'est un grand sonorisateur, un grand.
Le plus grand.
Le plus grand de tous. Et en tout cas, c'est lui qui a travaillé longuement sur ce disque The Fingers in the Noise. Nous sommes toujours avec Léo.
Oui, pour l'instant.
De l'affaire pour l'instant, bah oui, puis on espère que ça va durer encore un petit peu.
Il n'est pas couché sous la table encore.
De la ferme brasserie La Chapelle.
Exactement.
Voilà. Donc le nom, bah, tu vas peut-être nous l'expliquer, parce que finalement, nous, on le sait, mais pour tous nos audinautes dans le monde entier, ce nom de La Chapelle...
Carrément, le monde entier, c'est impressionnant. Hein.
Ah mais ouais,
c'est le monde entier.
C'est un village,
c'est plus puissant que les Hertz.
Nous sommes écoutés, alors, peut-être pas par beaucoup de monde, mais en tout cas, par un petit peu de monde, en Australie, en Belgique, en Suisse, au Japon, ça nous est arrivé. Et même aux Seychelles, c'est arrivé, figure-toi. On le sait parce qu'on fait des statistiques parfois. Enfin,
d'accord.
C'est une autre histoire.
C'est impressionnant quand même.
Ouf.
Faut que tu t'apprêtes à exporter très loin.
Oui, je vois ça. Ouais, ouais. Enfin,
voilà.
Je...
Ah, ouais, ouais.
Justement, là, on va parler des salariés. Là, faut qu'ils augmentent leur cadence.
Bon, allez, si tu veux, vraiment, on en parle. Mais vraiment, si tu insistes. Hein, parce que bon, on se doute bien que toi, tout seul, pour produire toute cette bière, c'est voilà. Pas facile. Donc, tu as peut-être besoin de monde.
Bah, un livreur déjà, parce que je suis venu aujourd'hui livrer, mais en fait, j'ai livré personne.
Ah, déjà. Mais si tu veux, on peut t'aider. Hein.
Ah, c'est sympa.
Mais on la garde avec nous. Ce sera vite livré.
Alors, non, pour parler de salariés, c'est vrai que, bon, j'expliquais, je crois, tout à l'heure quand même.
Oui.
Donc, il y a un salarié à temps plein, hein, qui est à mi-temps, puis un autre pour les vaches laitières. Hein. Puis bon, il y a moi et ma femme. Donc, c'est, voilà.
Et en fait, c'est des gens que tu as recrutés comme ça, qui avaient des connaissances dans le secteur de la bière, ou est-ce que c'est des copains que tu as emmenés avec toi dans ton aventure et,
Ah non, tout est par hasard à chaque fois. Il hein, n'y a pas de... Je crois qu'en fin de compte, moi, je recrute beaucoup dans les bars, hein, déjà. Un bon vivier, là. Et donc, il y en a toujours qui veulent travailler. Alors, moi, c'est très simple. Bah, il faut commencer. Donc, voilà, voir si ça plaît et autres. Voilà. Ça commence comme ça.
Mais est-ce que tu mets la pression?
Oui, c'est vrai qu'on travaille beaucoup en pression. Et nous, on marche à un bar 5, donc tu vois. Et quand je fais la tournée des bars, donc
oui,
je
donc
fais...
Oui, donc nous, on barre, c'est pareil. Ce que j'allais dire, c'est que nous, on marche à 5 bar 1, si tu veux.
5 bar 1, ouais. C'est vrai. C'est vrai que moi, quand je fais la tournée des bars, bon, c'est vrai que je travaille beaucoup sur Rouen, parce que ma majorité de ma production part sur Rouen. Hein. On a quand même 19 bars sur Rouen. Et donc, je ne peux pas faire tous les bars le soir même. Et donc, quand je fais un bar, deux bars, trois bars, je monte vite à 5 bars de pression. Hein.
Voilà.
Parce que je goûte la bière en pression. Et
après, les hommes en bleu n'aiment pas.
Et... Ouais, c'est vrai. Les hommes bleus, j'en ai parlé.
C'est une bière de barbare.
Surenchère de jeux de mots.
À mon pas avis, mal. Pascal, il veut te piquer ta place.
Ouais.
Non. 60.
C'est vrai que c'est une bière de barbare. Ouais, c'est vrai que bar en bar, c'est vrai. Mais sinon, bon, c'est un métier très sympa. C'est vrai que si on aime bien faire la fête, puis rencontrer des gens, je crois que c'est sympa.
Oui. Tu nous as quand même dit tout à l'heure pendant le repas que. Pour tenir un bar, fallait aimer les gens et pour être brasseur, fallait aimer la bière.
Oui, mais ça, c'est pour faire de la bonne bière.
Voilà.
Mais après, pour la vendre, il faut aimer les gens.
Voilà, c'est ça.
Non, c'est ça. Bon, c'est vrai que quand on est fabricant de bière, comme moi, c'est artisan, il faut avoir plusieurs casquettes, malheureusement. C'est-à-dire qu'il faut être fabricant, il faut être commercial, mais il faut aussi être bricoleur, il faut... Bref, il y a énormément de choses.
Polyvalent.
Bah oui, essayer d'être bon en tout, essayer. J'ai pas
alors
dit.
Justement, par rapport à la distribution, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui allais démarcher avec tes bières?
Alors, c'est
ou
marrant,
est-ce que
ça, parce
c'est
que...
bouche à oreille ou plutôt le bouche
bouche à bouche
à bière?
Ça dépend qui en a en face. Mais
bouche à goulot.
Le bouche au goulot.
C'est vrai qu'en France on dit bouche à oreille, en Allemagne ils disent bouche à bouche, mais moi je réponds ça dépend qui en a en face. Mais c'est la première. Ben, moi le commercial a commencé déjà sur les marchés fermiers. J'ai pas de point de vente. J'ai commencé qu'à rien. Donc, j'ai fabriqué la bière et j'étais sur les marchés fermiers.
Point. Dès l'an 1997.
Ouais, en juillet. Voilà. Donc, j'ai fait mon premier marché. Et ben là, c'était un semi-succès, on va dire, parce que la bière n'était pas tout à fait au point. Alors, les gens me disaient, c'est quoi? Ben, j'ai dit, c'est de la bière. On dirait du cidre. Oui, c'est vrai que c'est des bouteilles de cidre, mais dedans, il y a de la bière. Ah bon? Alors, ils me disent, c'est quoi comme bière? Ben, j'ai dit, c'est une bière viking. Ah, une bière viking, hein, c'est intéressant ça. Alors, je dis, ben voilà, ils prennent le verre et ils disent, ah, au viking. Puis après, il buvait, mais pas terrible ça. C'est vrai que c'est pas terrible. Bon, je rangeais le stand et puis je repartais au fourneau, l'améliorer la bière. Et après, on repartait dans d'autres villages pour vendre la bière. Et puis là, était de mieux en mieux. Puis après, voilà. Après, j'étais voir les bars, les épiceries. Et voilà.
Et comment
donc, c'est les gens qui l'ont mis au point un peu.
Comment elle a été accueillie justement dans les bars? Parce qu'il y a quand même une certaine culture de certains brasseurs, on va dire. En tout cas, oui, sur Le Havre et sur Rouen aussi. Enfin, il y a quand même un. On va pas dire un monopole, mais presque au niveau des brasseurs.
Un empirisme, on va dire.
Pardon ?
Un empirisme.
On peut dire ça.
Ils ont leurs circuits commerciaux, en tout
voilà,
cas.
Ils ont des gros circuits commerciaux, ils sont gros, ils imposent, ils arrivent dans un
aussi.
Bar. Toi, tu arrives avec ta petite bière artisanale.
Avec 305 break, par exemple.
Voilà. Comment t'es accueilli? Est-ce qu'on te dit, ben non, vous avez pas l'air sérieux?
Alors, c'est très simple. Comme l'investissement que je l'expliquais tout à l'heure, elle est très faible. Donc, je l'ai eu pour 10 000 francs. Donc, ça, j'ai pu me le payer. Donc, 10 000 francs à la brasserie. Donc, j'ai aucun remboursement.
Bon. C'est déjà une bonne chose.
Donc, voilà, important. Donc, de là, je donne des fûts dans les bars. Je donne.
Ah ouais.
Carrément. Donc, je donne des fûts. Et pour voir si ça leur plaît. Alors, ils me disent, c'est quoi, un zétite? Moi, c'est une bière normande, bière viking, Norseman et un zétite. Et donc, bah, voilà, ils font goûter. C'est gratuit. Puis voilà. Ça commence comme ça.
Ça
en fait, comment je prends, ben je vais dans un bar, j'ai un sac à dos, j'ai des bouteilles de bière dans mon sac à dos, je m'installe comme consommateur et puis je demande une bière. Voilà, rien de normal. Puis après, j'essaye de parler au patron de bar, s'il est libre. Donc, puis j'explique qui je suis. Ah bon ? Non, ça ne m'intéresse pas. Il me répond, bon, je reste toujours là, je suis consommateur. Après, je sors une bouteille et puis je explique que voilà, la bière, bon, voilà, je vous la donne. Ah tiens, pourquoi pas ? Et donc, il écoute. Puis après, il s'en barre, puis après, il revient, puis il dit bon, pourquoi pas, je vais essayer. Puis voilà, après, il file en aiguille. Mais sinon, ils sont tous réticents au commercial. Et d'abord, je comprends, parce que c'est vrai que la force de vente, j'aime pas. Mais quand on est consommateur, on peut pas partir. Donc voilà.
C'est bien joué. Mmh. Mais alors, du coup, oui, forcément, tu es obligé de consommer énormément au départ.
Oui, c'est vrai. Puis on donne beaucoup d'ailleurs. Mais c'est vrai que dans l'agriculture, bon, comme c'est vrai que je suis du milieu paysan, mes parents c'était agriculteurs. Ils me disaient toujours il faut donner pour recevoir, parce qu'il faut semer pour récolter. Donc c'est vrai que dans la vie, c'est la même chose. Pour aimer les gens, il faut donner pour recevoir aussi.
Une sagesse voilà. Paysanne qui plairait à notre futur ami prisonnier politique, dont on parlait tout à l'heure.
Oui, c'est vrai.
Mais justement, ça rejoint en fait. Je pense que tu vas pouvoir répondre à. Au moins deux ou trois questions en une, comme tu en as l'art, c'est que pourquoi La Chapelle et pourquoi Rouen? Géographiquement, tu vas pouvoir nous l'expliquer, je pense.
Alors, La Chapelle, c'est très simple. J'ai fait un rond sur la carte et j'ai dit, bon, voilà. Parce que moi, je venais de Paris. Moi, je suis d'originaire de la Normandie. Hein, je suis né à Gournay, une des portes normandes. Et j'habitais Paris. Donc, j'ai dit, bon, j'en ai marre de Paris. Donc, je suis revenu à la campagne. J'ai fait un rond sur la carte. Et donc, là, j'étais voir un notaire. Et qu'est-ce qu'il y avait à vendre?
Ah, carrément.
Ouais, comme ça. C'est la première fois que je voyais un notaire. Et il me répond, j'ai l'affaire du siècle. Je regarde les yeux tout ronds. J'y tiens. Première fois que je vois un notaire, première fois qu'on me dit ça. Ah non, voilà l'affaire du siècle. C'est vrai, c'était une affaire, pas du siècle, mais moi, je trouve que c'était une bonne affaire. C'est pas cher. Et puis, il y avait 8 hectares. Donc, j'ai dit, bon, j'achète. Puis après, voilà. Donc, je me suis installé dans cette ferme. Et puis après...
Donc, qui est situé à la chapelle
Saint-Ouen. À la chapelle Saint-Ouen. Ouais,
en pays de Bray. Je dis ça, voilà. Je te dis, je rappelle pour nos auditeurs de un peu partout.
Alors je me suis pas cassé la tête, j'ai appelé ça la ferme brasserie de la chapelle parce que ça se trouve à la chapelle Saint-Ouen, tout simplement.
Voilà.
Mais bon, la marque de la bière, c'est vrai que c'est la Norseman. Ouais.
Bien sûr. Et donc bon. On dira peut-être que c'est plus près de Rouen que du Havre, c'est pour ça que tu as plus de.
Oui, ben il faut savoir que Rouen, il y a 500 000 habitants quand même.
Aussi.
C'est une ville universitaire.
L'agglomération, hein.
Donc il y a une population qui est très importante au niveau des bars et au niveau des clientèles. Par rapport à Havre. Bon, puis en plus, moi, je suis assez loin du Havre quand même.
Voilà, c'est ça.
Mais j'ai quand même des bars à Havre.
Par exemple, Apple Pie.
Apple
Pie.
Et le bistrot.
Le bistrot.
Rue René Coty.
Voilà, Rue René Coty, effectivement. Le bistrot dont on a déjà parlé, figurez-vous, non pas qu'on fasse régulièrement de la publicité pour les estaminets, mais parce qu'en plus, le bistrot accueille régulièrement depuis. Voilà, les amis.
Là-bas,
si j'y suis, l'émission de France Inter. Voilà, donc notre émission de rentrée. On a reçu les AMG de là-bas si j'y suis et ils nous ont parlé de ce café, le bistrot. Ouais. Voilà,
est-ce que je peux dire que la chapelle, c'est un mot magique parce que dans les bières, on retrouve souvent dans les abbayes.
C'est vrai, c'est vrai que c'est pour ça que j'en ai profité aussi d'ailleurs. Ouais, c'est, vrai. C'est vrai qu'on parle toujours que la bière, c'est des moines, mais c'est vrai que l'origine de la bière, c'est les femmes qui l'ont faite. Hein.
Ah.
C'est voilà, il faut les remettre en valeur.
Les nonnes.
Il faut savoir que autant les temps reculés, bon, moi, on ne va pas parler de la préhistoire, mais bon, bien que l'homme vivait de chasse, qu'il y ait des pêches. Hein, c'est grâce à l'orge qu'il a pu sédentariser. Hein, c'est avec l'homme, il vivait par rapport aux glaciations. donc il s'appelle le gibier. Et il a pu se sédentariser grâce à l'orge. Alors pourquoi ? Bah parce que c'est un élément riche en lipides, glucides, protides, donc on pourrait vivre que d'orge et rien d'autre. Bon, il y en a qui vivent que de bière, mais bon. Oui.
Tout s'explique alors.
C'est une autre
forme. Alors pourquoi on l'appelait orge ? Bah parce que c'est jaune comme le métal et ça voulait dire or exactement à l'origine.
Ah bon ?
La paille d'orge, c'est jaune comme le métal, pareil.
Ah d'accord.
C'était bah, précieux. Hein, donc celui qui détenait l'orge, c'était quelqu'un de très puissant.
On savait que ça serait une émission éminemment culturelle, mais là, alors là.
Alors donc après, après la préhistoire, bah après il y a eu l'agriculture. Et l'agriculture, l'homme était souvent dans les champs parce que c'est un travail très physique. Et puis bah, la femme était là au foyer avec les enfants, comme vous comprenez. Et donc c'est elle qui préparait les repas. Mais donc dire les repas, les galettes de pain d'orge, parce que l'orge ça gonfle pas hein, par rapport au blé, il y a pas de gluten. Donc on fait des galettes de pain. Et donc cette galette de pain, si vous la laissez dans l'eau, ça fermente. Parce que les moisissures, on les respire dans l'air, mais nous, comme on n'est pas du sucre, on ne fermente pas. Donc, le pain fermente, et donc ça donne une boisson alcoolisée. Et donc, voilà, c'est une des premières boissons alcooliques.
Donc, pouvoir... en fait, les premières personnes de l'humanité qui ont été bourrées, probablement, c'est des femmes.
Je ne sais pas, je pense que l'homme est toujours curieux. Je pense que lui a goûté, parce qu'on ne va pas jeter. Mais.
Tu penses qu'elles n'ont pas goûté le.
Voilà, femme fabriquait, l'homme goûtait. Puis il trouvait que c'était bon, femme. Remets-en encore une.
Personne n'est là pour nous le dire. Si ça se trouve. Comme elle s'emmerdait, plus ou moins, peut-être qu'elle s'emmerdait pas d'ailleurs.
Non, je pense qu'elle invitait des amis, puis elle faisait goûter à ses amis son nouveau plat.
Ah, voilà.
Ils ont trouvé ça excellent le lendemain.
Peut-être
puis
qu'ils accueillaient des Ingmar, et puis...
Il y avait des séances super rare, c'est tout.
Voilà, non, mais bon.
Mais c'est vrai qu'encore au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui font des boissons anciennes, des gens qui sont en prison, malheureusement pour eux, ils peuvent avoir des boissons alcoolisées. Mais du pain, ils en ont.
Ah oui,
donc de l'eau, ils en ont.
Ah ouais.
Et il manque plus que la moisissure. Et là, ils ont une boisson alcoolisée.
Peut laisser fermenter. Tiens, entre parenthèses.
Il faut penser à José Boivet.
Voilà. Comme ça, il pourra boire à notre santé.
Voilà.
S'il est un peu malin, à mon avis, voilà. Il est. Peut-être que tu me diras que je me trompe. J'ai vu un toubib à une époque quand j'ai commencé à être végétarienne et qui m'a dit attention, bon, végétarien, bon, d'accord, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. On peut vivre sans manger de la viande. Il m'a dit, par contre, méfiance quand on commence à devenir macrobio, tu vois, c'est-à-dire que tu manges que des graines, etc. Il a connu, lui, alors, je ne sais pas si c'est vrai, hein, des gens qui mangeaient uniquement des céréales et dont la fermentation s'est faite à l'intérieur de leur propre organisme, ce qui a créé des cirrhoses du foie à des gens qui ne buvaient pas du tout d'alcool.
Ah, d'accord. Ah bah moi je suis pas un spécialiste de la biologie
en tant que
intérieure. Ah oui, là c'est vrai que
ça te semble possible. Enfin moi ça
c'est des concurrents pour moi déjà.
Ils produisent eux-mêmes leur alcool.
Et oui, c'est embêtant, ils n'ont pas besoin de passer par soi.
Voilà, coup, c'est
effectivement.
Ça.
Et une concurrence déloyale.
Voilà, exactement. Bon, ils devaient gonfler quand même, hein. Ils devaient se retrouver au plafond, non ?
Ouais, bah, je sais pas, peut-être qu'ils étaient obèses avant de devenir complètement alcooliques, on ne sait pas, mais bon. Pour revenir à la distribution, donc bah, c'est vraiment
Bah, c'est une aventure. Je
rare,
crois
en tout cas, la façon
il y en a qui font le tour du monde en chaise roulante, mais il y en a qui sont mis à leur compte aussi. C'est vrai que. Mais se mettre à son compte, c'est une vraie aventure, ça c'est clair. C'est plein d'embûches. Puis l'État n'est pas là vraiment pour aider, malheureusement, elle veut qu'il y ait de l'emploi. L'État dit comptez pas sur moi, mais je compte sur vous. Mais si elle mettait moins de taxes, je pense. Là, j'ai construit une nouvelle brasserie. Rien que la taxe de construction que j'en ai eu pour 4 500 €, taxe de construction, c'est quand même pas négligeable.
Oh, c'est pas possible.
Bon, ça, c'est pas normal. Bon, ben...
Pour la construction de ta nouvelle brasserie qui
voilà,
a donc 6 mois.
C'est une taxe. Hein, ça s'appelle, c'est la taxe perçue par le CAE, hein, comme construction, urbanisme, je sais pas quoi, environnement. Là.
Ce qui veut dire que sans préjuger.
Architecture, urbanisme, environnement, c'est ça.
Sans préjuger. De ce que tu vas vendre et développer comme potentiel non. commercial,
tu payes avant
tu es déjà taxé de ça.
Bah, j'étais taxé même avant que le bâtiment soit construit, même d'ailleurs. J'ai payé avant qu'il soit même construit.
Waouh.
Ouais, parce qu'on n'a pas construit assez vite. Et, là, je vois qu'on me prend photo. Là. Je passe même plus à la radio, je passe carrément à la photo.
Ah, mais tu sais, nous sommes un site avant tout,
multimédia.
Oui, puisqu'on
multimédia,
on a une radio sur Internet, donc voilà.
Je lève mon verre pour la photographe.
En buvant de la Norseman ambrée, bien entendu. Bien sûr. De la Norseman, on n'a pas tant parlé que ça, finalement. De l'orthographe, je voulais dire. Parce qu'évidemment, de la Norseman, on en parle. Pourquoi tu nous as parlé de latin tout à l'heure, c'est pour ça ?
Ça vient,
que
ça
s'écrit,
veut dire normand.
Oui, bah, c'était les premiers noms normands. En fait, quand les hommes du Nord, on les appelait les Norsemen. Il faut savoir qu'on avait une langue saxonne. Nous, on les appelait les Norsemen, hein, parce qu'on n'était pas latin. À ces époques-là, c'était la Neustrie. Et donc, on les appelait les Norsemen. Et puis après, ben, ça s'est appelé les Normands parce que ça a été latinisé. Norsemen, si on lit en latin, ça fait Normand.
Certes, j'ai bien compris, quoique blonde, mais.
Le A et le E, non ?
C'était pourquoi il y avait un espèce de A dans le ou l'inverse ?
Ah, ben, j'ai repris parce que ça faisait trop anglais, hein, le Norsemen, voilà. M-E-N. Et c'est la tapisserie de Bayeux, on voit beaucoup le A-E collé.
D'accord.
Et qui veut dire hey, en fin de compte. Et donc là, ça fait vraiment
donc
Norsemen.
Donc référence historique. Non, ouais. Non. Et je te dis
c'est vrai
que
ça fait
que...
aussi Norsemen M-E-N, mais ça fait vraiment plus Norsemen M-A-E-N.
Parce qu'avant d'aller te rencontrer l'autre jour sur la ferme, on est allé sur Internet regarder, et en tapant Norsemen, N-O-R-T-H-M-E-N, on a trouvé pas mal de sites. Mais ça n'était pas du tout ça. Et qui parlait pourtant de bière. Voilà. Alors je ne sais pas si tu.
D'accord, d'accord.
As des concurrents.
Mais j'ai pas le temps d'aller trop sur le site.
Ouais, bah, j'imagine.
Mais je sais qu'il y a beaucoup de sites internet. Je sais qu'il y a plusieurs sites Norsemen. Mm. Il y en a qu'on fait pour moi. C'est sympa d'ailleurs.
Oui, ça c'est vrai.
C'est vrai que j'ai vu des étiquettes.
On te retrouve sur pas mal de choses. Ouais, enfin, on retrouve la Norsemen. Ouais. Mais en revanche, on retrouve le plus souvent avec l'orthographe. C'est pour ça, même si c'est anecdotique, avec un E.
Avec un E.
Et pas AE, voilà.
D'accord.
Alors justement, par rapport au nom et au graphisme, qui est-ce qui a eu l'idée justement du graphisme, de l'écriture du nom et du graphisme qu'il y a tout autour des sous-bocs, de la bouteille? Parce qu'on a vu sur la bouteille de Torboyau, tu faisais une allusion tout à l'heure à la tapisserie de Bayeux, il y a des petits bonshommes là sur l'étiquette de Torboyau qui sortent vraiment pas loin de la tapisserie de Bayeux.
Oui, c'est vrai, oui.
C'est la reine Mathilde.
peut-être qu'elle était grande abattrice de cervoises.
Bon, il y a un petit peu d'humour dans tout ça, parce que dans la tapisserie de Bayeux, mais l'étiquette du Torboyau, il y a marqué et hic qui agosse et acquiert. Ça vient de la tapisserie de Bayeux, du moins c'est des mots que j'ai repris. Mm. Et X, c'est-à-dire ici, qui a ghost acquiert, c'est-à-dire qui a goûté achète. Mm. Donc on ne peut pas acheter le Torboyau si on n'a pas goûté. Bon, ça c'est commercial.
En tout cas, nous désormais, on peut en acheter.
Voilà, vous avez goûté. Sinon, le but c'est que ce soit sympathique, humoristique. Voilà, c'est vrai que joindre un peu la tapisserie de Bayeux. C'est vrai que la tapisserie de Bayeux, il faudrait me citer, c'est vrai que c'est une des plus vieux dessins qu'on peut retrouver à la Normandie, mais aussi dans le monde. C'est vrai qu'au niveau, a fait 51 mètres, je crois, sans me tromper. Et c'est vrai qu'une image vaut mille mots. C'est vrai qu'on explique énormément de choses sur la construction des bateaux qui ressemblent à une forme de drakkar.
Très belle BD.
On voit aussi leurs habits, on voit leur nourriture, on voit leurs boissons, on voit les lieux. Donc c'est vrai que ça explique énormément de choses, cette tapisserie.
Ouais, c'est un grand livre, un grand livre tissé, quoi.
Ouais,
c'est,
voilà.
Un album.
Un bel objet aussi. Donc, on a évoqué. Le site internet, on a dit tout à l'heure que c'était quelqu'un qui est plus au Havre, qui est pas très loin, qui est à Lillebonne, qui a fait le site. Est-ce que tu lui as laissé complètement carte blanche pour faire ce site, ou est-ce que tu lui as dit bah moi je voudrais que ce soit comme ça, que c'est cette couleur là, que c'est Ou il l'a fait vraiment en venant sur le site, en voyant.
J'en avais fait un moi-même, un peu, parce qu'on peut faire avec un logiciel, en faire un soi-même. Mais bon, c'était pas terrible. Et puis après, lui, il l'a vu, il m'a dit non, je peux t'en faire un, pas cher du tout, donc à 300 euros, je crois, à l'époque. Et puis bon, j'ai laissé carte blanche, parce que c'est vrai que c'est presque un métier. C'est vrai qu'il faut s'en occuper, ça prend du temps. Donc,
alors, justement,
il est doué. Voilà, donc c'est Jean-Pierre Deschamps, pour ne pas le nommer.
Ouais, voilà, tout à fait. Qui est-ce qui l'alimente? Qui est-ce qui le met à jour, ce site?
Moi, je m'en occupe pas du tout. C'est vrai que je suis assez débordé par le travail. Comme je disais, l'Internet, je l'ai débranché. Parce qu'on recevait des centaines d'emails.
Alors que tu le rebranches pour écouter l'émission.
Tu recevais beaucoup d'emails, ouais.
Oui, des centaines et on passe notre temps à l'effacer. Nous, en plus, on n'a pas ADSL, malheureusement, donc ça rame.
Ah oui, alors en effet.
Alors, puis on est débordé en boulot, en papier, en, je sais pas, il y a 10 cm de courrier tous les jours, sans compter les téléphones et les fax, donc plus le boulot, donc ça fait pas mal.
Ouais.
Donc, non, Internet. En plus, bon, il n'y a vraiment jamais de commandes très sérieuses. Oui, mais des bouteilles, quelques cartons. Ouais. Nous, ça nous prend plus de temps que de la vente.
Est-ce que... alors, tu parlais de salariés tout à l'heure.
Tu parlais de salariés tout à l'heure.
Dis-le, tu emploies des Polonais.
Non, c'est les plombiers.
Mais Letty, tu sais, même si son brasseur, elle aime les Polonais. Donc...
Bon, voilà, ça fait 5 ans que ça dure, l'histoire des Polonais. Vous ne saurez jamais. Bref. Non, c'était en fait la manière dont t'en parles, c'est on a vraiment l'impression que c'est quelque chose d'une aventure heureuse qui te fait plaisir. Enfin, t'as l'air d'être plutôt.
C'est vrai, j'ai pas plein.
Voilà,
tout à fait,
t'as pas l'air de te plaindre. Est-ce que tu te sentirais, par exemple, l'âme de quelqu'un qui transmet à quelqu'un d'autre?
Ah ben, je forme beaucoup de brasseurs. Là, j'en ai formé un pour Madagascar, du moins une plutôt, qui fabriquera de la bière. Là, j'en forme un en ce moment qui va fabriquer de la bière à Montforez. Là, il est actuellement là, il est en 3 semaines. C'est ça, voilà. J'en forme régulièrement des brasseurs. J'en ai formé un à Yport, pas très loin d'ici d'ailleurs, qui fabrique un petit peu de bière chez lui, qui vend. Et il a même enregistré à la Chambre des métiers. Oui, oui, je forme gratuitement des brasseurs pour qu'ils s'installent. Ouais.
D'accord.
J'ai pas peur de la concurrence, on va dire.
Alors, est-ce que par exemple, après, dans d'autres activités, ça pourrait donner, je sais pas moi, lieu à un apprentissage pour des jeunes qui veulent fabriquer leur bière eux-mêmes?
Ah, je reçois énormément d'amateurs. Donc, on vend des matières premières comme le malt, le houblon, les levures et tout ça, pour qu'ils fassent de la bière chez eux. Ouais. Et là, ils m'amènent leurs ingrédients, on goûte, et on regarde ce qu'il y a comme défaut, j'essaie de les aider pour améliorer. Bien que je ne suis pas en plus la personne qui sait tout non plus. Hein. Mais par rapport à mes connaissances, j'essaie de les aider.
Il n'y a jamais personne qui t'a proposé, par exemple, un jour de faire un bouquin là-dessus?
Un bouquin, si. On en reçoit des gens qui veulent des bouquins, mais il faut payer. Alors, donc, ça ne nous intéresse pas trop. Quand il faut payer...
Il faut payer pour que vous fassiez un bouquin, vous?
Disons, c'est des bouquins, c'est plutôt des annuaires de brasseurs.
Non, mais non.
Mais un bouquin en tant que roman, non, j'ai pas eu.
Non, pas roman, mais plutôt, je sais pas moi, un manuel du brasseur normand.
Le brasseur normand, ah mais non, ça, non.
Écoute, l'idée est lancée. Hein.
L'idée, elle est dans le micro, mais ça serait mieux que ça soit Léo et Fred qui la gardent pour eux et qui le fassent.
Bah,
parce
bien
que,
sûr, bah oui.
Tant qu'à faire. Ouais. Sinon, ça mais peut c'est... donner des idées à certains auteurs de polars qu'on connaît bien, par exemple Jean-Bernard Fouy, dont le héros, le poulpe, contrairement à tous les autres, boit la boisson normalement un peu méprisée des grands auteurs, et en tout cas méprisée de sa contrepartie SAS. Hein, le poulpe, lui, boit de la bière, toutes les sortes de bières. Oui. Peut-être qu'il faudra demander à Jean-Bernard de venir un petit peu avant au polar à la plage cette année, faire un petit tour par la brasserie de la Chapelle, par exemple. Peut-être qu'on peut demander aussi à Michel Onfray... qui nous écoute, qui fait l'université du goût, désormais, avec des jardins ouvriers et un grand développement à Argentan, plus précisément.
Argentan, oui.
C'est quand même, bon, dans le même secteur.
Parce qu'il va à l'université de Caen.
Faire peut-être une université populaire de la bière.
Fait l'université du goût, donc il devrait pouvoir inclure la bière dedans.
Voilà.
Il y a d'ailleurs une semaine du goût dans l'année.
Oui, ça devrait être toute l'année. C'est comme la journée de la femme, ça.
On va continuer avec Léo, bien entendu, sur la Norseman et entre autres ce que tu évoquais tout à l'heure, Christian, c'est-à-dire les différentes spécialités qu'ils produisent. Mais on va écouter, évidemment, vous l'avez deviné, un morceau des Fingers in the Noise, puisque c'est notre playlist unique ce soir.
Oh, yeah.
Donc c'était Nick Lowe et apparemment, si on s'en souvient bien, c'est que le groupe s'appelle Rockpile. Voilà, donc on écoutait toujours Fingers in the Noise. Je vous rappelle que le morceau s'appelait Heart of the City, qu'il y avait un magnifique solo de François Lebas, que c'est un morceau à l'origine de Nick Lowe avec Rockpile, et que copinage quand il nous tient, Marianick, la fabuleuse chanteuse des Chantimon Express, j'ai pratiquement honte de le dire, j'ai quand même fait des chœurs avec elle sur ce morceau-là. Ouais, trop fort. Cependant que Sylvie est en train de trouver une installation pour photographier Léo devant sa photo
pas très photogénique,
du Thor Boyo. Voilà, voilà, voilà. On avait dit qu'on allait repartir sur quoi ? Eh bien, on avait dit qu'on allait te demander...
Les employés.
Sont... Non, les employés, ça y est. Notre délégué syndical... polonaise.
Mais sinon, en parlant de Pologne, j'étais en Pologne comme ça en sport d'hiver, comme ça, parce que mon salarié parle polonais.
Oh, bah oui, là, oui, c'est pas vrai.
Il a ramené un plombier.
C'est vrai que mon salarié, il a été 2 ans en Pologne.
Oh, c'est trop beau.
Et il m'a offert les vacances au sport d'hiver.
Ouais, bah c'est sympa. Ça, c'est des rapports salariés à patronat intéressants.
Et c'est vrai que ta vie est pas
chère
du tout là-bas.
Quand je vous disais que les Polonais, ça valait le coup.
Voilà. Et donc alors donc, j'étais là-bas, bon, pour donner un ordre d'idée, c'est vrai que les Polonais, ils gagnent pas beaucoup d'argent, hein, ils gagnent 300 euros à peu près, hein, public ou privé. Mais par contre, il ne faut pas être brasseur là-bas.
Qu'est-ce qu'il faut être ?
Tout, mais
plombier,
pas brasseur.
On le sait.
Bah, les voitures électroménagers, le même prix qu'en France, ils ont un salaire qui est 3-4 fois moins cher qu'en France, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Et puis, par contre, je me rappelle, les pintes de bière, on les payait 50 centimes d'euros là-bas.
Ah ouais, quand on dit que la Belgique est le paradis de la bière, c'est plus la Pologne du coup. Ouais,
mais... Ouais, mais eux commencent à 9h du matin par contre.
Ah oui, c'est ça. Ouais. J'ai connu une Polonaise qui en buvait. Mais...
La bière qu'ils ont, c'est la bière.
Est-ce qu'on dit pas sous comme un Polonais ?
Ils fabriquent de la bière, les Polonais.
On le dit.
Ouais. Là où j'étais, ils fabriquaient de la bière. Ouais, il y a pas mal de brasseries en Pologne. Mais par contre, tout ce qui est alimentaire, la bière, c'est alimentaire. C'est pas
oui,
cher
on peut
du tout.
Le dire,
ouais, tout à fait.
On peut dire. C'est indispensable pour la diurétique.
Oui, pour une, c'est très diurétique. Et donc, c'est vrai que tout ce qui est alimentation, c'est pas cher du tout. Le logement est pas cher. C'est vrai qu'une semaine de sport d'hiver, je fais juste une petite pub pour la Pologne. C'est vrai qu'une chambre meublée pas loin des pistes, c'est 500 francs la semaine. Donc là, ça donne un ordre d'idée. Hein.
Donc, ah, bah là, oui, ça fait envie, les amis, tous en Pologne.
Bon, et la table d'hôte à la chapelle
Oui, on est en train d'aménager une ancienne porcherie. Il y a une centaine d'années, et donc on va faire un gîte. Et l'ancienne brasserie va déménager, et donc là on va faire une salle de caractère, et au-dessus il y aura des chambres. Donc ce sera une salle où, si vous voulez faire un baptême, une communion ou un concert,
on n'est pas tellement.
Pour une centaine de
on
personnes.
Est plutôt quand, on est plutôt
c'était quoi
au concert. Concert,
la troisième
baptême
option,
et
oui,
le mariage, nous.
Oui. Voilà, donc c'est une salle de caractère. Donc voilà, l'ancienne brasserie, on réaménage les bâtiments pour ne pas les laisser en ruine. C'était une ancienne étape d'ailleurs à l'origine.
Donc, voilà, une étable qui est devenue une porcherie et qui désormais sera une salle de caractère.
Non. Non. Alors, l'étable est devenue une brasserie, mais la porcherie devient un gîte.
D'accord, oui, c'est plus logique en même temps.
Oui, c'est
vu qu'en tout homme, il y a un porc qui sommeille. Bon, voilà. Mais en fait, en réalité, je voulais que tu nous parles de toutes tes spécialités, parce qu'on a dit que tu faisais de la bière ambrée, de la bière rousse, de la bière brune, le Thor Boyo. On ne peut pas l'oublier, dédié au dieu Thor.
Oui.
Christian, tout à l'heure, évoquait la bière à la châtaigne. Tu as différentes spécialités comme ça, qui ont l'air fort intéressantes, ma foi.
Oui, j'en ai plusieurs. Alors, on est beaucoup en rupture de stock dans ces produits-là, justement. Parce que nous, on est, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est à 80% chiffre d'affaires en pression. Je perds toujours la pression, moi. Ça veut dire qu'on est lié au bar. Donc, on ne peut pas avoir de rupture dans un bar. Donc il faut tout le temps produire de la bière et que de la bière pression. Donc on fait de la cervoise à l'ortie, on fait de la cervoise au chanvre, on fait de la cervoise à la bruyère, on fait de la cervoise au frêne. mais on peut pas souvent les produire parce qu'on est tout le temps en rupture des autres bières.
Ouais.
Donc on est un peu bloqué là. Bon, avec la nouvelle brasserie qui est construite depuis 6 mois, elle a produit 6 fois plus que l'ancienne, mais on pourra que doubler la production parce qu'on a que 2 fermenteurs. Mais voilà. Mais elle produit 6 fois plus par jour. Parce qu'on produit 5 millilitres au lieu de 750 litres. Donc là, c'est quand même mieux. Voilà.
Ça me fait penser qu'on n'a pas tellement parlé de l'eau là-dedans, parce que finalement, il y en a aussi.
La bière, c'est de l'eau, c'est bien connu. Hein ?
Tout à fait.
80%.
Oh, il y en a même bien plus. Dans l'eau, dans la bière, il y en a 100% de liquide, il y a 95% d'eau et 5% d'alcool. Si la bière fait 5 degrés. Mais bon, c'est pas grave.
Eh oui, non, mais voilà, on
faut
est
pas,
là pour.
Faut pas que tous les buveurs de bière le savent, parce que là, ils vont se lâcher encore plus qu'avant.
Ce soir, on est là pour apprendre, et donc, effectivement, on a appris.
Alors, l'eau, elle vient de là où je suis. Hein. On va pas chercher des bouteilles en plastique par des camions qui polluent. Hein.
Bien sûr.
Donc, nous, elle vient tout simplement du robinet, c'est de l'eau du réseau. Et là, bientôt, dans la nouvelle brasserie, on aura l'eau du puits. Parce qu'on a deux réseaux. On a l'eau du réseau par le Veolia, maintenant ça s'appelle Veolia.
Ah oui, pardon.
Et l'eau du puits, donc ce sera. Donc nous, on a un puits qui est profond de 60 mètres. Donc l'eau traverse 60 mètres de calcaire avant d'être pompée. Voilà. Donc là, on va la pomper. Donc tout est installé dans la brasserie. Mais là, pour l'instant, on ne se sert que pour nettoyer le sol. Puis après, ça servira pour la fabrication.
Ça suppose beaucoup d'installations en infrastructure ou ça se fait
simplement? Ah non, c'est très simple. Il y a juste qu'à mettre une pompe et des tuyaux. Bah voilà. Voilà, très simple.
C'est
voilà.
Fait.
Voilà, c'est fait. Voilà. Oui, c'est vrai. Non. Il faut juste avoir des analyses et des contrôles tous les 3 mois par la DAS. Voilà.
C'est la moindre des choses. En tout cas, bon, tu n'étais pas là il y a 15 jours car tu es un homme fort occupé et puis à la limite, on se connaissait à peine. Mais nous avons évoqué le problème de cette société d'eau minérale en bouteille. Qui avait fait une contre-pub dégueulasse contre l'eau du robinet, voilà, en sous-entendant fortement que quand on n'achetait pas leur eau en plastique, on buvait l'eau dans laquelle on avait fait nos propres besoins, en gros. Voilà. On peut dire ça comme ça.
Contre-pub dictatoriale, enfin si tant est que la pub ne soit pas déjà dictatoriale à la base, en l'occurrence.
Voilà,
là,
doublement dictatoriale, voilà. On va dire. Voilà, voilà. Donc pour en venir à tes spécialités.
Oui, c'est vrai qu'on fait de la bière à la châtaigne, je crois que
voilà.
Celle-là.
Okay. Christian avait vraiment envie d'entendre parler de la bière à la châtaigne.
Bon, on va lui en parler. On va parler de la bière à la châtaigne tout simplement parce qu'il y a un village à 5-6 bornes de chez nous qui s'appelle Cattenay, voilà, c'est ça. Cattenay en romain, je crois que ça veut dire castagne. Et castagne veut dire châtaigne. Bon, je ne suis pas un spécialiste du latin. Et donc ce village-là a plein de châtaigniers. Et donc ils font une fête de la châtaigne. Voilà. Et donc, ils m'ont demandé, il y a 5-6 ans, de fabriquer de la bière à la châtaigne, tout simplement. Donc, depuis, j'ai fait une bière à la châtaigne. Donc, moi, la structure de cette bière-là, c'est une bière ambrée. J'incorpore 20% de châtaigne. Et la châtaigne, c'est quoi ? Ben, c'est un fruit. Et donc, ça contient donc, de l'amidon. Et donc, elle servira, en remplacement du malt, à 20%, donc à donner la structure de la bière. Voilà, elle ne sera pas là pour aromatiser, mais que pour donner de la structure. Donc on boit vraiment une bière à la châtaigne.
Ah,
voilà.
C'est pour savoir si on a bien suivi. Bon, j'espère que vous avez bien suivi, et nos audinotes aussi. En même temps, l'avantage des audinotes, c'est qu'ils peuvent réécouter l'émission un nombre de fois conséquente. Mais quand même, bon d'accord, elle est là en substitut à l'amidon, mais elle donne quand même une saveur.
On l'a qu'en arrière-goût.
D'accord.
Et un petit peu d'astringence. L'astringence, c'est ce qui prend sur les côtés de la bouche. Donc voilà.
C'est ce qui resserre.
Voilà. Donc là, on a en arrière-goût. C'est vrai que dans le vin, les œnologues, comme on peut les appeler, crachent. Nous, on trouve que c'est du gâchis. Donc nous, on avale. Mais il faut savoir qu'en avalant, on a un goût. Et l'arrière-goût.
Ah
bah, voilà. Et dans la bière,
les
on l'a.
Et dans l'arrière-gorge.
Je crois qu'ils renvoient leur formation.
Est-ce qu'il y a un vocabulaire aussi bizarre que les. Que le vin où on parle.
Ah oui, il y a plein de dégustateurs dans la bière. Je ne connais pas le terme, comment il s'appelle, mais. Ah oui, j'étais invité à Paris il n'y a pas très longtemps. Il y a un magazine de la bière qui s'appelle Bière Magazine. Et donc, j'étais invité à un restaurant à Paris avec plein de spécialistes de la bière. Et il fallait que je fasse un exposé sur comment je fabriquais ma bière.
Ouais.
Et donc, là, j'amenais des échantillons de bière. Et là, ils étaient tous en train de parler. Puis là, j'expliquais. Ouais.
Est-ce qu'on dit gouléant, voilà, ou est-ce qu'on dit des mots
Oui, oui, oh là là, pour expliquer la bière.
Est-ce que c'est très sensuel aussi, comme dans le vin?
Oui, la cuisse.
Ça, de la robe, de la cuisse, tout ça.
La robe.
Ouais, alors, ce qu'il y a, c'est que dans la bière, il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y a le côté. Il y a la mousse, il y a la tenue de mousse. Il y a plus ou moins de mousse, donc plus ou moins dense. Après, il y a le côté alcool. Après, il y a le côté moelleux, qu'on n'a pas le vin. Le charpenté, on appelle ça. Oui. Donc on peut l'avoir une bière désaltérante ou une bière très charpentée, donc bière épaisse. Donc ça, c'est l'amidon, les dextrines qui restent exactement. Et puis après, les arômes, les levures, le houblon. Donc ça fait énormément de choses qui rentrent en jeu, hein, c'est vrai. Donc, après, on peut avoir une bière amère, pas amère. Il y a énormément de sortes de variétés d'houblons. Des houblons aromatiques, des houblons amers. Et puis les levures, comme il y en a 300 variétés. Donc vous voyez un peu le nombre de sortes de verres qu'on peut faire avec la même quantité d'orge à l'origine. Donc, puis après, il y a la qualité d'eau qui rentre en jeu. Donc on peut faire une bière... Il y a de quoi faire. Ouais. Donc là, il y a énormément de gens, il y a beaucoup d'associations. Hein. En Belgique, j'en retiens une qui s'appelle l'Association des buveurs d'orge.
C'est vrai, ça part d'orge. Comment ? Il y a des confréries.
Il y a énormément de confréries. Il y a énormément de choses. Ouais. C'est vrai que moi, j'en fais partie d'aucune, mais sinon. Ouais.
Moi, les confréries, bon, j'en sais rien. En tout cas, dans le vin, j'aurais tendance à m'en méfier parce que quand je vois certains gros vieux élus de la République. Dans des robes moyenâgeuses avec leurs écuelles de test vin, ça me fait un peu frémir. Mais bon, ça serait un autre sujet.
Je voudrais pas être intronisé, moi.
Bah, moi non
ça
plus,
fait mal. Hein.
Surtout par ces gens-là. Hein. Bon, enfin.
C'est le terme. Hein.
Oui, absolument. On ne sort pas du
un
cadre.
Petit banquet avec Santini, non ?
Voilà, ouais. Tu as mis le doigt dessus.
J'ai l'adoubement avec une collée.
Les amis, allons, voyons.
Voilà.
C'est fait, ça n'est plus à dire.
Surtout que tu récupères pas la main. Hein.
Plus sérieusement, oh bah bravo. Plus sérieusement, je voulais revenir au fait que quand on est passé effectivement chez toi l'autre jour, on a vu que tu te lançais encore dans une grande première, parce que visiblement c'est quelque chose.
Ah oui, une cervoise, pas une cervoise, mais une bière. Attends, qu'est-ce que je fabrique là ?
Une fen. Voilà.
Ah oui, le fen être.
Voilà.
Ouais, c'est vrai que c'est. Ben là, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Parce qu'on va la mettre en bouteille demain, d'ailleurs.
Ah, bah écoute.
Le fen, c'est un fruit, encore une fois. Donc, c'est un peu la même fabrication que la châtaigne. Donc, comme c'est une bière ambrée, on remplace une partie de l'orge. Et donc, par le fen. Là, ce qu'il y a, c'est qu'elle est très riche en amidon par rapport à la châtaigne. Donc, là, il y a eu un débordement de cuve. Et très, très riche. Donc, elle va être fortement alcoolisée, s'il y a eu un débordement de cuve. C'est un bon parfum. C'est un goût de noisette, hein, le fen. Hein.
Donc, on en a croqué un petit peu.
Par contre,
sympa.
C'est beaucoup de boulot, hein, le fen. Ouais. Hein. C'est une forme triangulaire. C'est un fruit que tu n'as pas rencontré, je crois. C'est pas courant.
Non, c'est vrai.
C'est pas courant.
Bah, je sais pas, la plupart d'entre nous, quand ils étaient petits, on a pourtant des souvenirs avant que tout soit urbanisé, d'avoir vu des petites choses comme
oui,
ça.
Oui, oui, mais c'est lourd. Hein, c'est lourd et c'est un fruit. Hein, c'est comme une noisette, mais c'est en forme triangulaire. Hein, c'est comme une pyramide d'Égypte, un peu.
Exact, c'est ça.
Et donc ça pour décortiquer c'est un boulot de titan, donc faut trouver l'appareil pour décortiquer, puis bon voilà, on va faire des essais. Bah tout simplement parce qu'à l'ONF ils sont venus me consulter ils ont plein de fen, donc ils m'ont demandé de faire une bière avec.
D'accord.
Donc,
voilà. Ça veut dire que ça n'existait pas au moins dans la région en tout cas, ou au moins en France.
De feignant.
Ou...
Bravo.
C'est vrai, ça s'écrit FAINE.
De mieux en
mieux. C'est des racines. Ouais. Mais non, parce que eux ils font des plantations de hêtres, mais donc ils mettent des filets en dessous les arbres, et on peut récolter que tous les deux ans. Hein, ce qu'il m'expliquait, il y a tout un. Puis il y a une période de dormance aussi sur ce fruit, c'est-à-dire que s'il n'a pas gelé, le fruit n'a pas gelé, il ne peut pas germer. Donc il faut qu'il germe, puis après il va germer. Un peu comme le grain, il faut qu'il sèche pour qu'il germe. Donc pareil. Donc nous on stocke pour pas qu'il gèle. Voilà.
Donc là, en l'occurrence, c'est l'ONF qui est venu te voir. Sur la châtaigne, ce sont les gens de Cattenay.
Oui, voilà.
C'est-à-dire que tu es souvent sollicité.
C'est vrai que je ne veux pas voir les gens, c'est vrai.
C'est vrai. T'as raison, parce que si tu voulais les voir, qu'est-ce que ce serait ?
Oui, carrément. Hein, c'est vrai.
Oui, parce qu'alors, tiens, parce qu'on va passer bientôt à la deuxième chronique de Pascal.
C'est vrai que je fais de la bière à l'Orti, c'est des gens d'Hortifolie. Vous devez connaître, je pense, l'association La Hydroto aussi, oui. Le Fred, non, c'est de moi. Non, c'est de moi.
Ah, voilà, quand même.
Et selon l'alignement de la lune, l'absinthe.
Ouais, ça, c'est un jeu de mots, tout ça. Ouais. C'est vrai que c'est pour donner un peu de côté romantique.
Ah, voilà.
Et c'est très créatif, finalement.
Je voulais en venir au fait, avant de donc passer la parole à Pascal pour sa seconde chronique de la soirée, que, en fait, tu rencontres, puisque tu organises régulièrement des visites, c'est-à-dire toutes les semaines, je crois.
Tous les samedis.
Tous les
samedis de l'année, sauf une semaine en hiver, puis deux semaines en août.
Bah, le temps de partir au sport d'hiver en Pologne.
Voilà, par exemple. Hein, donc on prend 3 semaines par an, sans le cacher.
Quand même.
Et donc tous les samedis de l'année, on fait des visites gratuites. Donc il y a 2 horaires, c'est 15h30, 17h30. Ça dure 3 quarts d'heure à peu près. Hein, donc on visite l'ancienne brasserie, la nouvelle brasserie, avec dégustation gratuite à la fin. Les gens peuvent acheter ou pas acheter. Hein. Donc là, on peut goûter tout ce qu'on veut, hein, bière, cervoise et whisky. Voilà.
Et tu as beaucoup de fréquentation dans ces visites ?
Mais il y a toujours du monde.
Ouais.
Il y a toujours du monde. Bien sûr, en hiver, il y a moins de monde. Mais on n'a jamais dit qu'on était fermé, donc on est toujours là.
Ouais.
Puis bon, c'est vrai qu'il y a des gens, qui... c'est toujours des habitués qui viennent avec des amis, encore des amis, des amis, des amis.
Donc, et des autocars.
Donc c'est le bouche à bouche.
Il y a un petit peu d'autocars, mais on ne fait pas de publicité.
Pas encore de japonais.
Des autocaristes, on ne s'occupe pas. Des japonais, non. On a eu des japonais qui voulaient acheter notre brasserie, tout le corps de ferme. On a dit qu'on n'était pas en vente.
Des où ce...
On va faire un partenariat avec l'université, ouais, c'est peut-être.
Non, c'est des coréens, pardon.
Et Pascal, il y a des mangas sur la chapelle.
Pas encore. Il y a une série qui s'appelle Sommelier, mais il n'y a pas encore de série sur la bière, mais ça peut venir.
Non, mais en tout cas, écoute...
Il y a des séries dans la bière, dans les bandes dessinées.
Oui, non, je vais les mettre à l'orge.
Oui.
Oui, non, il parlait des mangas.
Des mangas. À propos des japonais.
Sinon, il y a les mettre à l'orge.
Pas encore.
Il y a une série sur le pain aussi. Yakitake Japan, hein, si je me trompe.
Entre le pain et la châtaigne... Je ne sais pas si c'est des arts martiaux dans les règles de l'art, mais enfin, on a croisé quand même en partant de la ferme la dernière fois une dame qui nous a dit mais est-ce qu'il y a du monde parce que je viens acheter de la bière, donc c'était pas un samedi pourtant.
Non.
Donc ça veut dire que tu as aussi des clients qui viennent comme ça.
On est ouvert de 9h à midi, 14h, 19h. Oui, bien sûr, n'importe qui peut venir acheter de la bière, bien sûr.
Toutes informations qui seront sur le site de Radio Apple Pie bientôt et qui sont en tout cas sur le site de la Northman qui est, je crois, Northmine. Donc.
Oui.
www.com. D'accord, ouais. C'est pas vrai.
Mais on l'a c'est écrit là, je crois.
Le mot clé Northman.
Oui, mais de toute façon, on fera un lien, pardon.
Paf, une châtaigne.
Notre ami Pierre, amateur de Northman, fera un lien avec le site.
Dirait Jean-Christophe Averti.
Bon, on ne quitte pas Léo qui est toujours autour de la table derrière son micro et derrière sa Norseman ambrée et qui a encore beaucoup de choses à nous dire, pas encore sous la table. Mais après ce morceau de Fingers in the Noise, tiens, quelle surprise, nous allons passer la parole à Pascal pour sa seconde chronique de la soirée.
We'll be right back.
High Time.
On a voilà, tous alors reconnu. On avait fait un quiz, mais évidemment.
J'ai gagné.
Tout le monde avait reconnu, surtout Letty.
Ils ont pas dit.
High Time, un morceau de Little Bob. Si vous regardez sur la pochette du disque, c'est crédité à Piazza. Piazza et quelqu'un d'autre, je n'ai pas bien regardé. Et voilà, donc Roberto Piazza, dit Little Bob, qui fut notre invité trois fois quand même, et c'est bien la moindre des choses, interprété par Fingers in the Noise.
J'espère qu'on l'aura encore hier.
Mais bien sûr, il revient quand il veut, Bob, avec sa Mimi, pas de problème. Donc Pascal, maintenant, tu as choisi un jeune auteur pour ton coup de cœur de la quinzaine.
Ouais, jeune, il a le même âge que moi, t'es connerie.
Mais oui, il est jeune, mon Pascalou. Oh.
Alors qu'il a dit le contraire. En tout cas, jeune en écriture, peut-être.
Oui, tout à fait, parce que c'est son premier roman, en fait. Donc, ça s'appelle Last Exit to Brest, qui est paru donc de Claude Batani, qui est paru chez Métayer dans l'excellente collection Suite Noire. Mm-hmm. Et la bio que j'ai de Batani est tout à fait éloquent, puisque effectivement il est né en 62 en Brest. C'est tout.
Bah, c'est bien.
Donc c'est vachement éloquent déjà.
En même temps, comme ça on s'emmerde pas.
Bah voilà, c'est très simple.
Hein. Tu veux passer par-ci, par-là, bon, il est né en 62 à Brest.
C'est plus important de parler de son roman.
Voilà.
Parce que quand même, c'est un sacré coup d'éclat, comme disait Lobu. Non, ça vous fait pas rire. Bon, d'accord. Un roman très noir et très rock, parfaitement ancré dans la ville de Brest, c'est vrai. Rendu quand même supportable, parce que c'est vraiment très très noir. Par une plume trempée dans une verve, un humour qui sent loin de tomber en rade.
Est-ce que je peux te poser une question, Pascal? Oui. J'ai lu un certain nombre de polars issus de cette...
excellente collection.
Excellente édition, collection. Et je les trouve vraiment particulièrement noirs. La Cité des Jarres.
Ah, c'est très noir. Hein,
La Demoiselle au ciseau, je crois.
Ouais.
Est-ce que c'est vraiment une caractéristique de ces éditions-là ou c'est un
ouais,
hasard
qu'il, je pense que c'est une caractéristique aussi qui est intéressante dans cette collection-là, c'est que c'est noir, mais en même temps, il cible dans des univers très particuliers et des
très
auteurs
social.
Très social aussi. Effectivement, parce que bon, il y a eu des auteurs comme Carlotto en Italie, dont j'avais déjà parlé, ou effectivement en Suède, etc. Mais c'est vrai, effectivement, ce sont des auteurs très, très. Mais bon, le polar est social avant tout, donc quelque part.
Oui.
Donc, à moins les auteurs, bon, de taper sur les auteurs américains, grosse production américaine, la majorité des auteurs de polar font dans le social quand même quelque part. C'est toujours leur fonction.
Surtout ce que tu choisis. D'aucuns médias nous reprochent de couper régulièrement la parole aux chroniqueurs. Là, je dois dire qu'on est bien.
Non, mais c'est sympa en même temps.
Bah oui.
On va pas se fâcher.
Au monde qu'on s'y intéresse au moins.
Non, mais c'est vrai que en plus, c'est la priorité, effectivement, enfin une des priorités de la collection Métayer Noir, c'est de sortir des auteurs qui changent un peu de l'ordinaire,
ouais.
Et de cibler ça effectivement sur le côté un peu social, un peu bon. Enfin, dire social, c'est un peu peut-être parfois péjoratif aussi, mais le côté effectivement noir, mais en même temps, c'est pas du polar forcément, c'est du côté noir, comme il y avait avec Jim Thompson, des gens comme Jim Thompson, comme ça, des auteurs américains à une époque qui étaient limite polar et limite roman noir. Donc,
Hamlet, Chandler, Thompson des gens comme ça, ouais.
Mais en même temps, qui reflètent très bien d'ailleurs la nouvelle société aussi, quoi. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, bon. Donc là on se retrouve devant effectivement une trempe. Une plume trempée dans une verve et un humour qui sont loin de tomber en rade, comme je le disais tout à l'heure. Ah, rade de Brest, forcément.
Il a trouvé le moyen de le caser deux fois, tout de même.
Ah ouais, c'est pas fini. Hein. Bien que de café, il en est question. Café et rade, non, ça ne veut dire rien. Donc, puisque Larsen, le café en question, qui est dedans, est lieu de rencontre et de concert des musiciens brestois, une grande partie de la scène musicale brestoise, et notamment le groupe qui s'appelle Last Exit to Brest, qui était en référence forcément à Last Exit to Brooklyn de Selby, n'est-ce pas, qui est un excellent roman sur la descente aux enfers d'une certaine personne. Et donc on se retrouve effectivement avec un personnage qui s'appelle Alban Le Gall, qui est manager de ce groupe là manager, qui est un colosse là
grosse blague pour Ludo, un colosse de rade, forcément. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est colosse de rode, mais bon, oui. Merci, voilà. Qui travaille à temps, de temps à autre, dans la sécurité, passionné de rock, cœur tendre sur sa, sous sa carcasse de cœur de dur à cuire, et homosexuel. Et lorsque des cadavres sont retrouvés à peu près partout dans Brest, notamment le petit ami pianiste d'Alban, le manager du groupe, il va avoir du boulot sur la planche pour protéger le groupe en question. Mais vous vous demandez pourquoi, effectivement, j'ai choisi ce polar.
Oui, on se demande pourquoi.
Quel lien avec les brasseurs, effectivement. Eh bien, l'explication de cette tuerie pourrait bien se trouver derrière deux fûts de bière au bar en question, le Larsen. Et le proverbe très connu, « Rock qui roule n'amasse pas mousse », ça va chercher celui-là parce que pourrait se révéler cette fois-là exact. Un roman, bon, c'est vraiment un roman conçu comme un ancien vinyle en fait, parce qu'il y a deux parties dans le roman, face A, face B. Une face A où il y a la description de ce qui se passe, des événements. Une face B où il y a l'explication de ce qui s'est passé avant. En fait, c'est toujours vu du côté du personnage principal, Alban Le Gall. Mais la deuxième partie, c'est la confession en fait, du personnage principal. Tout ça pour terminer dans un final noir et mortel à la violence d'un morceau de rock de fin de concert. Qui est très très dur en fait.
Oui.
Et pour justifier la prochaine Northman, je vais.
Pour justifier, vraiment
justifier.
Tu veux en faire un justicier.
Non, c'est pas un vrai justifier. Mais pour justifier la prochaine Northman que je
vais
voir.
À la barre.
Où je vais là pouvoir assécher mes papilles gustatives, puisqu'il m'en reste encore.
Les papilles de la nation.
Voilà. En lisant un court passage, deux romans, effectivement.
Ouais.
Ça vous plaît vachement, ça, hein, que je lis à chaque fois des passages. Je
on
sens
adore,
bien.
On
vous donnerait ça. Hein. Yann a baissé la garde sans même attendre que je le chatouille. Ce type menaçait Bertie avec un flingue, s'est-il écrié. Je t'assure, il allait la buter. Ce n'était pas un enfant de cœur. Je l'ai laissé reprendre son souffle tout en maintenant la pression. De son discours un peu nauséeux et surréaliste sur son fond de garage musicaux, je compris ceci. Alors qu'un soir de décembre 1998, Bertrand Podaglet, Denis Jousse, Loïc Marchandou et lui-même répétaient dans le garage insonorisé, où à présent nous nous trouvions. Voici que vers minuit, Hugues Pellier avait surgi un gros calibre à la main, tenant Bertie en respect. Ce n'était plus le Hugues Pellier de naguère, amateur désireux de s'initier à la sécurité de concert et ancien pote retrouvé de Digi-Brest. Mais un Gus plutôt déterminé et se présentant là pour une affaire sérieuse. Il était en quête d'un gros sac, soi-disant lui appartenant, dont les membres du groupe, via Tijos, s'étaient accaparés. Au début, personne n'a manifesté la moindre intention de contrarier ses aspirations. Et Yann Kerelec m'affirma, je veux bien le croire, qu'il ignorait même à l'heure de quoi parlait l'agresseur. D'ailleurs, plus fin et moins nerveux, ce dernier aurait peut-être obtenu sans cesse, sans casse, ce qu'il cherchait. Mais il a menacé Bertie de façon trop directe. Loïc, qu'il ne faut jamais titiller sur l'affectif, n'a pas supporté. Il s'est carrément jeté sur le flingue, parvenant miraculeusement à l'écarter. Pierre est tourné en arrière sous le poids du bonhomme. Bertrand de Podaclet, très réactif en situation de crise, lui a finalement envoyé une de ses cymbales dans la tronche. Pellier a néanmoins pu relever son arme et tirer. Une des balles a frôlé le ventre de Loïc. De rage, ce dernier lui a tordu le poignet et le flingue est parti vaneller sous les drums. Pellier s'est dégagé pour sortir avec l'autre main un cran d'arrêt de sa poche et s'est replié vers Bertie. Liane lui a alors balayé les jambes avec le trépied d'un micro pendant que Bertrand Podaglet lui balançait une enceinte sur les parties et que Loïc, avec une bombarde tenue par le bec, lui éclatait le pif. Mon interlocuteur me rapporta qu'il n'avait pas à la suite porté que quelques touches superficielles, en tout cas aucun sur le visage, sur la personne d'Hugues Pellier, mais je sentis qu'il tentait d'atténuer sa participation à ce pogo rageur. Des musiciens, seul Denis Jousse n'était pas intervenu, plutôt indifférent, frappant les cordes de sa guitare dans un solo sans consistance, comme pour couvrir le bruit. C'est peut-être peu de temps après sa métamorphose sur scène, parce qu'il avait changé effectivement de tempo.
Ah, de tempo, je crois, ouais. De tenue, mais bon, aussi. Pourquoi pas.
Si on veut être plus complet, disons que Loïc avait le membre le plus actif, avait été le membre le plus actif du festival, remodelant avec
ça aurait fait très plaisir à Loïc, je crois.
Remodelant avec la tranche de sa basse, de visage, de l'agresseur, mais les talonnettes de Bertrand avaient aussi bien beaucoup œuvré. De fait, après différents coups portés avec plusieurs instruments contendants, dont même un accordéon ayant appartenu à feu Henri Révoilant, les musiciens finirent par se rendre compte que Pielet avait depuis déjà un moment fait des adieux au music hall. Quand Yann eut achevé son histoire, il mettait une expressivité un peu obscène et partisane d'un commentateur sportif. Je me suis dit que j'étais verni de manager d'aussi furieux spécimens. Voilà, c'est pour dire que bon, c'est très sombre, certes, le roman, mais en même temps, il y a un humour assez torride dans l'histoire.
Et gaélique, parce que.
Et aussi, effectivement.
Donc, heureusement que toutes les répètes, enfin, on l'espère pour les musiciens dire. Qui sont dans la salle, ne se passent pas comme ça.
Finalement, vos répètes, elles sont très, très calmes.
Très soft, hein. Ouais.
Ouais. Ouais. Et... Non, non, ils sont plutôt afterpunk.
Donc voilà, tout ça pour vous dire que le roman, en fait, bon, qui s'appelle Last Easy to Brooklyn, qui est paru chez Suite Métayer dans la collection Noire, qui s'appelle.
Non, non.
Oui, Brest. Oui, presque. Ouais,
t'as vu comment
les associations d'esprit,
ah,
c'est bien, c'est pour tester.
Donc,
l'assistance to Brest.
Mais on suit.
De Claude Batani, paru chez effectivement Suite Métayer Noir. Eh ben, c'est pas de la petite bière. Pressez-vous d'aller l'acheter et savourez-le sans faux col, avec sa saveur amère.
Bravo, Pascal. Alors, parfois, je dis que tu trouves des personnages avec des noms extrêmement compliqués à prononcer. Et là, c'est encore le cas. Et bien que tu sois breton, oh, je dis, hein. Bon, tout le monde devrait s'appeler Dupont. Tout le monde peut pas s'appeler Durand. Dupont. Ok, ok. Mais ça n'est pas le Brassens de la semaine. Là, devinez quoi? Avant de repartir avec Léo vers la fin de cette émission, le dernier morceau des Fingers in the Noise. Et oui, c'est bien la première fois qu'on passe l'intégralité d'un CD dans une émission de Radio Apple Pie. Il fallait attendre la 103e pour ça. Mais en même temps, c'est pas n'importe quel groupe puisque c'est Fingers in the Noise. Ce dernier morceau s'appelait I'm Real. Je ne sais plus du tout par qui il était interprété à l'origine, mais on s'en fiche. On va demander, j'espère que c'est pas une question piège, à Léo, notre invité de ce soir, si ça lui a plu, s'il avait dû
oui, non, super,
choisir
non,
de
super.
Rock'n'roll.
Ouais, ça me fait vraiment plaisir de passer à la radio, en plus radio internet. Non, c'est... En plus, je suis impressionné que les micros qui sont vachement élevés déjà, et puis il y a une table aussi charmante. Donc, c'est vrai que non, c'est très sympa. Non, c'est
bon,
vrai
bah
que...
écoute, en tout cas, on voulait conclure parce qu'effectivement...
Je souhaite plein de succès à Radio Apple Pie.
Ah, mais nous, à la brasserie de la Chapelle, cervoiserie fermière de la Chapelle aussi, voilà. Mais on t'a pas encore complètement
assassiné encore.
Assassiné non plus. Tu n'es pas encore sous la table et ça prouve que tu bois de l'excellente bière, la tienne d'ailleurs.
Merci.
Mais non, on voulait te parler d'une activité annexe, enfin je sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, mais des fêtes vikings que tu organises, et je crois que là c'est la 7e. Bon, peut-être, en tout
8e,
cas. 8e,
je crois. 8e. Huitième.
Bon, autant pour moi. Eh bien.
8e ou peut-être dernière, je pense.
Ah, alors.
Malheureusement, parce qu'il y a trop de monde qui vient déjà, hein, c'est déjà ça.
Victime on a plus du succès.
C'est ce qu'on dit. Ouais. C'est vrai qu'on n'a plus assez de place pour accueillir le monde. Hein. L'année dernière, il y a eu 2500 personnes. Il y a plus de 2000 voitures. On avait 6 hectares, on était débordés. Ils ont vidé 146 fûts dans la soirée. Le lendemain, il y avait des spectacles, mais on était obligé d'aller les arrêter parce qu'il y avait trop de monde. C'est vrai qu'on était débordés. C'était la folie. Donc, on le refait encore cette année. On augmente la surface de 3,5 hectares. On fait toujours un bûcher. Donc, c'est une fête païenne. Donc, c'est quoi le bûcher? Donc, c'est du bois. Hein. Donc, c'est des palettes avant. Maintenant, des palettes, on en trouve de moins en moins. Donc, maintenant, j'achète du bois, carrément.
Ouais.
Donc, on fait des bûchers assez gros. Hein. C'est un gros diamètre.
C'est Saint-Jean, non? C'est au moment
de... Saint-Jean, c'est après. C'est le solstice d'été. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été pris par les chrétiens. C'est vrai qu'ils ont fait la fête de Saint-Jean pour, en fin de compte, évangéliser les païens. Ouais, c'est ça. Donc, on fait cette fête. Hein. Donc, on danse autour du feu. Alors, le principe, c'est très simple. C'est 1 euro l'entrée si on est déguisé viking, 6 euros si on n'est pas déguisé. Voilà. Donc, on a des charmantes jeunes filles. Il n'y a pas de garçons à l'entrée. Donc, c'est eux qui disent si le costume il est correct ou pas. Voilà. Pour savoir si c'est 1 euro ou 6 euros. Voilà. Après, donc l'année dernière, on a fait un truc un peu particulier. Donc, on a fait des spectacles pour enfants. Donc, ça commençait à 14h. Donc, il y avait des petits théâtres, des spectacles. Donc, il y avait Médor le dinosaure, il y avait le pouvoir de l'eau. Donc, tout ce qui a rapport avec l'enfant, donc pour les enfants de jusqu'à une dizaine d'années maximum. Puis à 19h, bien sûr, les enfants, il faut aller au lit. Et là, c'est les groupes de musique qui passent sur podium. Donc, il y a 6 groupes qui passent sur podium. Donc, nous, c'est plus du rock folk. Et après, il y a des groupes de musique déambulants entre deux. Il y a des cracheurs de feu, bien sûr. Là, on avait une marionnette qui faisait 6,50 m de haut et qui vient allumer le bûcher, articulé par 12 personnes. Donc, c'était très, très lourd. 6,50 m, c'est impressionnant en hauteur. Et donc là, c'était un viking.
Vous faites concurrence à Royal Deluxe.
Comment?
Vous faites concurrence à Royal Deluxe.
Oui, c'est notre
géant. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais, c'est un malus, c'est immense, je crois, Royal Deluxe. Hein. Là, 6,50 m. Et donc il y a un grand bûcher, après on danse autour et puis après il y a des groupes de musique qui continuent après. Voilà.
Mais alors, c'est une organisation voilà,
ouais.
Voilà. Phénoménale.
C'est vrai que c'est du boulot.
Et vous êtes combien à l'organiser cette
fête-là? Je suis tout seul.
C'est un moment où ils s'emmerdent.
Qui tire sur toutes les ficelles du géant.
Je vais gérer 2500 personnes.
Ah non, moi je m'occupe que de l'organisation. Je m'occupe pas de... C'est moi qui prend les groupes de musique, c'est moi qui embauche les personnes pour servir au bar, pour la bouffe, parce que nous on tue 10 sangliers quand même. Il y a 4 brebis et 2 cochons, et donc on fait on fait à peu près 1500 repas. Et donc voilà, bah c'est ça. Donc bon, c'est pas très compliqué en plus. Hein. C'est vrai qu'il y a juste qu'à recruter. Bon, c'est vrai que sur le nombre d'années, après on a notre listing, on a toujours le même sonorisateur. On a bon les groupes de musique, ça change tous les ans, c'est jamais les mêmes. Et les spectacles changent aussi. Bon voilà, c'est pas en plus, c'est pas la folie.
Et ça a commencé en l'an 1000 combien?
C'est la 8e année, donc on est en 2007.
En 1999.
Voilà.
Oui,
merci.
Mais le tout était de savoir la régularité. Est-ce que c'était tous les ans ou pas? Donc,
c'est tous les ans.
Effectivement, ouais. C'est tous les ans.
Ouais.
Voilà. C'est ça.
Donc après, on voit leur ferme, mais plus tard, du moins ailleurs, parce que le site est trop petit. Et là, j'ai des problèmes à trouver des terrains. Peut-être qu'au Havre, ils veulent bien me prêter une vingtaine d'hectares, mais sinon, c'est très difficile.
Si tu t'adresses à Antoine Ruffnac, je ne sais pas quelles sont ses origines et s'il en a des vikings, mais je doute.
Hein, de la bière, bon, si.
On ne sait jamais, après tout.
Ouais, c'est clair, ça.
Et ça t'est venu comment, cet intérêt pour la culture nordique? Est-ce que la bière a été, entre guillemets, une porte d'entrée vers ça? Ou est-ce que c'est quelque chose dont tu étais déjà porteur longtemps avant,
quoi? Bon, comme tu disais tout à l'heure, j'étais curieux, donc c'est vrai que j'aime bien le côté de la fondation de la Normandie. Je pense qu'on parle toujours de la Bretagne, les Bretons, les Bretonnants. C'est vrai que la Normandie, elle a le droit aussi à sa culture. C'est vrai que c'est une terre de passage, ce qui fait qu'on est très proche de l'Angleterre, donc elle était très brassée. Par les brasseurs, non, par les gens. Et donc la culture, elle n'est pas restée. Hein. Il n'y avait pas eu de langue, mais il y a eu des écrits. Hein. Il y a eu des écrits, des argots, bref, il y a eu des langues. Bon, je pense que c'est un peu donner l'identité. Et c'est vrai qu'il y a un public pour ça, pour l'identité culturelle normande. Quand je vends la Norseman dans les bars, c'est une bière viking. Bon, voilà, après, chacun l'interprète comme il veut. Une bière régionale et autres. Et donc, voilà, il y avait une demande, voilà.
Ça reste un côté terroir sans chauvinisme.
Oui, tout à fait, non. C'est purement régional. Voilà. Les Bretons revendiquent beaucoup là.
À bas les généralités. Hein. Donc, je suis très embêtée de dire ça. Ce n'est pas parce que je suis bretonne et Pascal non plus. Ce n'est pas parce que tu es breton que peut-être tu voulais dire toi aussi que il y a toutes sortes de Bretons. Déjà, il y a déjà les Bretons de la diaspora. Nous sommes nombreux, notamment ici. Enfin, c'est par hasard. Hein. Et en fait, c'est vrai que il y a une identité qui peut être, utilisé par des chambres de commerce ou par des gens pas très sains qui veulent se servir, comme dirait Brassens, tout simplement les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Ça peut servir à des mauvaises choses, mais quand ça reste dans l'esprit de ce que tu fais, l'histoire de se rappeler qu'il y a des origines, qu'il y a des traditions, voilà.
Voilà,
ça se passe, à mon avis, c'est une
l'esprit
bonne
de
idée,
fête, quoi. Je crois qu'il faut partir. Voilà. Et je crois qu'il n'y a pas de région particulière. Je crois que l'être humain aime bien faire la fête, hein, tout simplement, dans toutes les régions du monde. On peut le voir, les gens font la danse, s'amusent, ils boivent.
Eh bien, voilà. Amis, est-ce que je peux Tourangeau et Creusotien, je ne sais pas, vaut mieux que tu l'auras.
Creusois,
si vous avez une identité forte à nous faire découvrir, écoutez, Radio Apple Pay, t'as
alors, Tourangevin, il y en a. Hein.
Ouais.
Non, je pense toutes les régions ont une identité.
Ouais. Bien sûr.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'en Normandie,
ça, c'est politiquement correct,
il y a quelques pistes comme ça de brasseurs qui s'installent. La bière a l'air d'être un champ d'investigation. On parlait du Mont-Saint-Michel, on parlait je ne sais plus de quelle région aussi. Vous êtes plusieurs brasseurs, artisans.
On est plusieurs, mais...
Et vous connaissez ?
Oui, bien sûr, on a monté une association. Moi, j'organise un festival des brasseurs normands, c'était au mois d'octobre l'année dernière. Donc, j'ai invité tous les fabricants de bière de toute la Normandie à venir vendre leur bière chez moi. Donc j'ai amené mes patrons de bar et mes clients à venir connaître les différents producteurs.
C'est peut-être l'occasion de faire une tournante de ta fête, pour retrouver des lieux importants.
En même temps, ça fait connaître les différents producteurs, les différents produits. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a des brasseries qui s'installent, mais il y en a qui ferment aussi, malheureusement.
Oui.
Hein, c'est vrai
le disait à propos de...
Il y en a une qui a fermé à
Balzane,
mais il y en a une autre qui a fermé cette année, non, c'était l'année dernière. Comment ça s'appelait? C'est Luc Léonard, la brasserie. Je ne me rappelle plus son nom.
Brasserie qui existait depuis longtemps
Oui, elle existait depuis 8 ans.
Est-ce que je peux dire que je suis un peu l'ancien dans la bande là. Oui. J'ai été élevé en sentant le houblon sur la ville du Havre. Il y avait la brasserie Payette. Oui. Et l'endroit où justement il y a la brasserie, où il y avait la Balzane, on continue d'y brasser la Payette parce que on l'a relancée en 2004.
Oui.
Et je te disais que j'y retrouvais, c'est pas la Madeleine de Proust ou le livre de Philippe Delerme avec un goût de la bière là.
La première gorgée de bière.
Gorgée de bière, mais très sincèrement, ils ont retrouvé le goût que j'avais de cette bière Payette. qui était sur les paquebots quand c'était la grande
quand
aventure.
Quand tu étais petit, ah, tu buvais déjà voilà, de la bière quand tu étais petit, mais bravo.
Il va falloir que je rentre parce que je suis très très fatigué.
Ah. Non, mais c'est bien qu'ils fassent redécouvrir les produits qui existaient avant et pouvoir trouver le goût, ça c'est bien au contraire. Mmh. Hein. Malheureusement, Balzane elle est en mauvaise posture, mais sinon. Non, c'est bien. Ouais. Et puis en plus, bon, il y a aussi le côté gastronomique aussi. Je crois que les gens sont contents de rencontrer une région, goûter un produit qui s'appelle, qu'ils ne voient pas dans toute la France, comme je pense à Kronenbourg ou d'autres marques, et d'avoir des produits régionaux, ou comme dans la gastronomie, ça évite d'avoir des chaînes d'alimentation qui sont les mêmes. Ouais. Donc avoir des produits qui ne sont pas du tout, mais plutôt indépendants, artisanaux. Voilà. Je crois que je suis pour l'artisanat, de toute forme qu'elle soit. Ça soit artisanat alimentaire ou artisanat des produits du cuir ou autre.
Avant de conclure, je voulais te poser une question qui me travaille depuis tout à l'heure et que j'ai totalement oubliée finalement. La bière blanche que vous produisez, elle n'est vendue qu'en bouteille. Elle n'existe pas à la pression.
La bière blanche ?
Oui.
Si, elle est vendue en pression, oui.
Elle est vendue à la pression. Ah bon, bah alors là, c'est un appel direct. Dom et Coco, s'il vous plaît. La bière blanche à la pression. Vous pouvez commander de la Northman et régulièrement. Voilà.
Et y aura-t-il une bière de Noël ou qu'est-ce que c'est que les bières intitulées de Noël?
Alors c'est purement commercial la bière de Noël, hein, ça veut rien dire. Moi j'en fais une parce que bon j'ai une demande, mais c'est nous on a fait une bière rousse avec un nouvel houblon et puis on l'a rendu beaucoup plus amer, donc on appelle ça une bitter. Mais ça veut rien dire, c'est purement commercial. Par contre la bière de mars, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est la dernière bière de l'année.
Ouais.
Hein, et les Allemands ont gardé la tradition avec Oktoberfest. C'était la dernière bière fabriquée de l'année et il l'a laissée en fût, en futaille, et puis il l'ouvrait en mois d'octobre pour faire la fête, pour septembre plutôt, et il faisait la fête de la bière fabriquée. Voilà, à Munich, c'est ça.
Oh là, ouais.
Mais ils ont gardé la tradition de la bière de mars. Parce qu'on ne peut plus fabriquer de bière après mars, comme j'expliquais. Ah, ouais. Alors que la bière de Noël, c'est, voilà, c'est commercial.
D'accord. Mmh. Ouais.
Mmh. Bon, on ne parle pas trop, hein. C'est comme les bières ratées. Ouais. Mmh. Bon, moi, je ne sais pas quel est le mot de la fin, à part le rendez-vous pour la peut-être dernière fête viking.
Dans semaine un jour, dans semaine toujours, mais
ouais,
sinon...
Vous avez tous entendu le message
Par contre, de toute façon...
Tiens, t'es pas au courant, ça.
Mais où, Léo?
Alors, justement, peut-être la dernière fête viking pour le prochain solstice. Par contre, si on a envie de te retrouver, on peut te retrouver aussi sur divers festivals, foires dans nos régions, comme la fête de la Scie, festival de l'Hortifolie.
Oui, c'est vrai.
Entre autres. Donc, ça fait partie aussi de tes activités que de participer à des festivals et à des foires.
C'est vrai qu'on n'est pas brasseur seulement en semaine, on travaille aussi le week-end. Donc, le samedi, on fait les portes ouvertes, tous les samedis. Et le dimanche, je suis sur les stands, vendre les produits. Sur les marchés, donc ça peut être les fêtes médiévales comme les fêtes d'Hortifolie, ou ça peut être la foire de Rouen, ça peut être le salon agricole ou n'importe quoi.
Tiens, ça
7 jours sur 7.
C'est bête, c'est à part le fait de saluer ce travail énorme, je me rends compte qu'on ne t'a pas posé une question, on ne l'avait même pas noté ni les uns ni les autres. Est-ce que, au-delà des brasseurs, tu travailles avec d'autres agriculteurs, d'autres artisans? Est-ce que tu as des rencontres parfois avec des gens qui produisent des primeurs, avec des AMAP, avec des... Je ne sais pas.
D'accord. Les AMAP, non, sans... Oui, ça y est, ça me revient. Donc, on travaille avec Saveur et Savoir, un truc comme ça. C'est une forme d'AMAP. Ils achètent de la bière, oui, c'est vrai. D'accord. C'est des associations. Bon,
ça peut se retrouver sur des marchés. Enfin, je ne sais pas, il peut y avoir des rencontres.
Ouais. Ce qu'il y a, c'est que la bière, ce n'est pas un produit comme les légumes ou de la viande... Pour la MAP, c'est une boisson de fête.
Oui, ça ne se...
Donc, c'est d'accord. Les bars, c'est la fête. Voilà, c'est ça. Mm. C'est plus ça.
Non, mais j'y pensais parce que tu parlais des marchés. En fait, ça m'est venu comme ça, effectivement. Je me suis dit, peut-être qu'il peut se passer des rencontres entre producteurs.
Oui, on se rencontre entre différents producteurs. Bon, différents brasseurs, on peut se rencontrer. C'est pas très courant. Différents agriculteurs. Mais il faut dire, je veux dire une chose, on n'a pas le temps. On est prêt tout le temps. En plus, je suis maire du village.
C'est pas vrai.
Ouais, donc, j'ai des mariages. J'en ai un week-end prochain.
D'accord.
Tu dis qu'il s'emmerde dans sa maison.
Il n'arrête pas de s'emmerder. Et tout à l'heure, à propos de la fête, je pensais.
Ah oui, ça m'étonne pas qu'on t'ait connu pour l'intermédiaire de Dom et Coco.
C'est tout à la fois.
Maintenant, on est un petit village. Donc, il faut s'occuper, disons. On n'a pas la télé, nous. Hein.
Pas la télé, pas la DSL, donc ça bosse dur. Bon, bah écoute,
au fin fond,
avant de passer la parole la à Léo, moi alors. Je ne peux que dire bravo. Je ne sais pas si vous avez autre chose à dire à Léo.
C'est une belle rencontre.
Ouais. Bah, bravo et merci.
Bah, merci, puis pareil pour vous. Bon, bah, une heure semaine pour tout le monde.
Ennio Morricone, bien sûr, ça faisait longtemps, trop longtemps. Ennio Morricone, L'Assoluto Naturale, 1969, extrait de la bande originale du film éponyme de Mauro Bolognini.
Bien entendu.
Donc ce soir on parle d'Italie, d'Italie interdite. Avant ça, tout de même, saluer quand même nos deux héroïnes de la quinzaine passée, à savoir Sœur Cigare et Sœur Bouffarde.
Bigre donc.
Qui sont-elles ? Eh bien, ce sont des personnages de La fiancée de Dracula de Jean Rollin, passés dans le cycle trash qui se poursuit sur Arte, faut-il le préciser ?
Qu'à notre grande honte, nous ratâmes le 1er février.
Et voilà. Demain, à l'heure où nous parlons, s'entend, mais nous y sommes peut-être déjà. Donc, tous les jeudis, nuit de jeudi à vendredi, Arte poursuit vaillamment son cycle trash. Et le prochain film à venir, à 7h, n'est autre que L'invasion des femmes abeilles. Voilà, série B américaine du début des années 70. Vivement.
À la vôtre.
Bon, ça y est.
Non, non, attends, j'ai mon verre. Quoi.
Toi aussi, lève ton verre.
Norsemen un jour.
Toujours.
À la vôtre.
Cycle donc dans lequel nous retrouvons les femmes abeilles.
Dans lequel nous pourrons retrouver dans la nuit de demain à vendredi, L'invasion des femmes abeilles, série B américaine du début des années 70. L'invasion des femmes abeilles. Libération sexuelle et musique funky à l'avenant que je recommande vivement.
Absolument.
Voilà. Sinon, pour revenir sur la, juste pour revenir sur La fiancée de Dracula, pour ceux qui ne l'ont pas vu, charmante œuvrette dernière en date de Jean Rollin, frappé d'un anticléricalisme bon enfant, s'entend avec ses sœurs pour le moins décalées, et ses dialogues à l'avenant, évidemment. Où la mère supérieure en interpelle une en lui disant « Sœur Marthe, vous pourrez bientôt vous appeler Sœur Folie Bergère ». Donc,
C'est dire si tout cela est mignon et finalement on n'est guère mordant.
C'est vrai, c'est charmant. C'est pas tout à fait maille à l'abeille pour autant.
Non, mais maille à l'abeille, on va s'en écarter, car c'est également dans La fiancée de Dracula que l'on peut trouver cette magnifique tirade qui pourrait être le titre de la chronique de ce soir. Alors, très théâtral, hein.
Oh, il parle bien le mec, comment il s'appelle? Comment il s'appelle, le mec?
Léo.
Applaudissez-le.
Albert Scott, ah oui, c'est lui qui a le prix Londres.
On assassine ce soir à l'arme blanche.
Ah, c'est, voilà, c'est ça. Voilà. C'est la citation.
Exactement.
Nous compatissons, Ludo. Je sais que ta carrière de cinéma bis aventurier est en train de se passer dans des conditions plus sévères que d'habitude. Mais c'est ça qui forge le caractère.
T'inquiète pas, les films sont plus sévères que d'habitude.
Résiste.
Aussi. Donc, Italie interdite. Qu'est-ce à dire ? Eh ben, on va saluer un éditeur vidéo, Neo Publishing, dont on a fort peu parlé jusqu'à présent. Et à défaut de mettre la main sur ce Béatrice Cenci, lien d'amour et de sang, que j'annonce quand même depuis deux émissions, mais on va bien finir y arriver, on va quand même saluer Neo Publishing pour ses autres sorties. Alors, pour ceux qui l'ignoreraient encore, Neo Publishing s'est fait une spécialité, c'est de rééditer un paquet de classiques, parfois crapuleux, souvent ambigus, gentiment tangent, douteux, du cinéma populaire italien des années 60 et 70.
Période que tu affectionnes particulièrement dans la botte.
Particulièrement parce qu'elle est irrécupérable, en fait. Et c'est ça qui est fort intéressant. Alors, Neo a balancé un cycle cannibale, un cycle gore. Alors, évidemment, cycle cannibale avec toute la publicité ad hoc, hein, formellement interdit aux âmes sensibles, aux membres du clergé et aux végétariens. Je m'en excuse.
Oh, je suis désolée parce que moi je concours à deux titres dans ça. Et... âme sensible et végétarienne, mais ça m'ennuie d'être. Enfin bon, quoi qu'il en soit.
Bon, on va dire que les deux films de ce soir ne sont déconseillés qu'aux âmes sensibles en l'occurrence. Ah. Alors donc, deux films italiens, un déjà sorti chez Neo, à savoir La maison au fond du parc, et un à sortir le 19 février. Merci jusqu'ici connu sous son titre de sortie sale à la fin des années 70, à savoir La bête tue de sang-froid, Bigre. Donc, on va commencer par celui qui n'est pas encore sorti.
Ah, évidemment.
On va le prendre dans l'ordre chronologique, hein, de la production. Alors, La bête tue de sang-froid qui va ressortir sous le titre Le dernier train de la nuit est un film d'Aldo Lado. Qui est Aldo Lado ?
J'allais te le demander.
Voilà. Né le 5 décembre 1934 à Fiume, alors en Italie, mais maintenant en Croatie. D'ailleurs, toi. Voilà. Mais oui, non, mais on s'instruit par la marge aussi, hein, comme ça. Hein.
Absolument.
Voilà, c'est ça. Alors, Aldo Lado a à son compte 14 longs-métrages de cinéma plus quelques collaborations télé. Il est également scénariste. Hein. Il a fait ses armes sur quelques westerns italiens. Bah ouais, tu penses bien. Hein, voilà. Dont le titre original est Carogne Sinace. Alors, en américain, ça donne...
De la charogne sans...
En américain, ça donne « If one is born a swine, kill him ».
Quelqu'un a tué un cygne ?
Non, c'est si quelqu'un naît pourceau, on le crève, quoi.
Ah oui, c'est différent. Voilà.
Titre
prévenu, quoi.
Titre pour le moins radical. Hein.
D'accord, bon, voilà.
Pour le moins. Alors sinon, il va être aussi assistant réalisateur sur des productions extrêmement diverses. Alors, ce qui s'appelle extrêmement. Hein, on le retrouve aussi bien en tant qu'assistant réalisateur sur Le Conformiste de Bertolucci, que pour Fantasia chez les Ploucs en 1971.
En effet.
Et aussi en 1968 sur ce très très obscur qu'il faudra redécouvrir un jour, Hallucination sadique, film français de Jean-Pierre Bastide avec Daniel Gélin et Georges Belair.
Mais rigole pas.
Georges Belair. Donc vous n'allez pas me dire que c'est un acteur méconnu quand même.
Ah si, totalement.
À ce point-là ?
Attends, il a une filmo qui affiche une quarantaine de titres.
C'est pas vrai.
Ah, bien sûr.
Autant.
C'est pas ça, rigolez pas les enfants.
Georges Belair. Non, parce que Daniel Gélin, bon, d'accord, on voit bien. D'accord. Bah,
voilà, non, mais ça, c'est bon. Alors voilà, c'était un certain cinéma français à l'époque où les films faisaient encore référence à Antoine Pinet comme, comme vieux barbon rédhibitoire.
Et vous allez voir quand Georges Belair fera son émission avec Michel Drucker. Il va sortir des choses intéressantes.
Oh, bah, ça va être beau.
Voilà, voilà. Bon, sinon, de manière beaucoup plus serrée, dirons-nous, Aldo Lado est connu pour une poignée de films, à vrai dire, sur les 14. Notamment, en 71, il réalise Titre sublime, La corta notte delle bambelle di vetro.
La courte nuit des enfants.
La courte nuit des poupées de verre.
Waouh. Wow.
Traduit en France par Je suis vivant. Et en 1972, il réalise Qui l'a vista morire, à savoir Qui l'a vu mourir.
Ben voilà. Bon, ça, on ne sait pas.
Qui jusque-là est absolument parfait. Deux thrillers italiens à redécouvrir de toute urgence. Musique de Morricone, hein, absolument passionnante. Voilà. Il va faire aussi du film en costume avec la Sepolta Viva. Il va tourner L'Humanoïde, film de science-fiction Z très prisé des amateurs. Il fera une adaptation d'Alberto Moravia en 1981, La désobéissance. Voilà.
Le dar a bien fait le mépris, il n'y a pas de raison.
Voilà. Et en 1975, il livre cette Ultimo traîné della notte, connu sous une multitude de titres, donc Le dernier train de la nuit, qui s'inscrit, comme le deuxième film de la chronique qui arrive tout de suite, ne t'inquiète pas.
Non, je ne m'inquiète pas du
dans tout. Dans le sillon d'un sous-genre.
Excuse-moi, ça t'ennuie qu'on fasse une petite chronique de radio momentanément, excuse-moi.
Voilà.
À la tienne, Léo.
On va essayer.
Dans un sous-genre initié en 1972 par Wes Craven. Wes Craven, l'auteur de
Scream, de Freddy Krueger,
voilà,
sûr,
qui en 72 faisait La dernière maison sur la gauche. Voilà.
Ah, ouh, oula, c'était pré-Ségolène Royal, ça. C'est bon.
Oui, Ségolène n'y aurait guère eu sa place. Hein. Donc rappelons qu'il s'agit quand même d'un film d'une extrême violence, pour le moins, voilà, qui jetait le schéma archétypal de production qui allait suivre, et notamment en Italie. Deux jeunes filles qui partent à l'aventure et tombent entre les griffes d'une bande, désœuvrées, schématiques. La bande les assassine et tout ce qui s'ensuit.
Ah bah, comment ça, tout ce qui s'ensuit, les assassinent
d'abord ? C'est plutôt tout ce qui précède, non ?
Non, ils les assassinent d'abord. Bon, enfin... Bon, laissons le suspense planer encore un peu.
Je laisse planer un peu de suspense, ouais. Etc. Et la question est celle de la vengeance, non pas perpétrée par les jeunes filles, puisque de fait...
bah oui, là, forcément.
Mais celle des parents. Mm-hmm. Parents qui sont des, en l'occurrence, américains moyens, citoyens, tout ce qu'il y a de plus rangé... policiers qui préparent leur gigot, leur dinde, etc.
Leur gigot rosé.
Tranquillement, et la thèse étant derrière le vernis de la civilisation, de la classe moyenne ou de la bourgeoisie, la violence ne demande qu'à surgir, et de manière encore plus sauvage, de manière encore plus extrême, et avec d'autant plus de bonne conscience qu'elle est perpétrée. Voilà.
Est-ce que les assassins se font émasculer ?
Alors, dans la dernière maison sur la gauche, effectivement, il y a une émasculation. Toi, tu l'as vu ?
Non.
Non.
Bon.
Non, c'est ce que j'aurais donné comme punition.
Mais c'est ce qu'elle aurait écrit.
C'est ce que t'aurais eu envie de faire ?
Oui.
Ah bah bravo.
La loi du talion.
Et voilà.
Non, c'est pour
et
rigoler.
Et voilà,
hein.
On joue sur les
tout
bas...
Tout ça n'est que de l'affection.
On joue sur les bas instincts, effectivement. Donc, Le dernier train de la nuit...
Œil pour œil.
Réalisé en 75, donc en Italie, les années de plomb. C'est pas anodin du tout. Donc, conte l'histoire de deux jeunes filles, donc Margaret Offenbach et Lisa Stradi, donc deux jeunes filles, une allemande, une italienne. Elles prennent le train en Allemagne. Elles rentrent chez la famille d'une d'entre elles en Italie pour passer
chez
Noël.
La mama.
Voilà, pour passer Noël.
Pas chez la mutter, chez la mama.
Chez la mama. Voilà, c'est ça. Le papa, il est chirurgien. Voilà. Il dispense à l'occasion au sein de la cellule familiale quelques théories plus ou moins fumeuses, vaguement sécuritaires et bien chargées en préjudice par rapport à l'état de la société. Et les deux jeunes filles vont devoir changer de train puisqu'il y a une alerte à la bombe dans le leur.
Ah oui, donc les années de plomb.
Et vont se retrouver dans un train avec trois passagers pour le moins singuliers, à savoir un dénommé Blackie. et un dénommé Curly, qui sont...
J'adore les Curly.
C'est croustillant, tu veux dire?
Quand tu les vois alors...
Voilà, l'apéritif.
Ceux-là, c'est pas sûr qu'on les aime, mais non, c'est pas, peut-être non, le savoir elle, ou pas.
Donc, ils sont deux jeunes mecs, un petit peu à la dérive, qui commencent le film en agressant un Père Noël rougeau, dirons-nous, voilà, etc.
Couleur locale.
Voilà. Alors, on pense un petit peu à Depardieu et Devers dans Les Valseuses, mais la poésie en moins, quoi, la rudesse en plus, avec moins d'émotions à fleur de peau, dirons-nous.
Ouais, on pourrait en dire, mais enfin bon, ouais. On n'est pas là pour ça, parce que moi, sur Les Valseuses, oula, je pourrais en dire longtemps.
Voilà. Voilà. Sauf que nos deux gaillards ne rencontrent ni Brigitte Fossé ni Jeanne Moreau dans le train.
Tant mieux pour elle, on verra.
Masha Merrill,
c'est le secret de sa jeunesse.
Qui a eu une carrière italienne. Qui a eu une carrière italienne, on se rappelle notamment d'elle dans Les Frissons de l'angoisse de Dario Argento, où elle jouait la médium. Oxy assez rapidement par ailleurs. Et ici Masha Merrill, vêtue de rouge, joue la grande bourgeoise qui n'a pas de patronyme, hein. Elle sera créditée comme la femme perverse du train.
Voilà. Bah, écoute.
Voilà.
Ça vaut mieux que la vieille des talk shows de maintenant en même temps.
Voilà. Bon. Donc, avec ce huis clos, ces deux jeunes filles naïves, ces deux jeunes mecs égarés et cette manipulatrice flamboyante, dirons-nous, tu peux fort bien imaginer le climat qui
dans
s'instaure
le compartiment
très rapidement.
Voilà.
Voilà. La tension monte. La musique est de Morricone qui se fend pour l'occasion d'un air d'harmonica qui n'est pas bronsonien mais qui strie les nerfs, je peux te le dire méchamment. Ça va fort mal se passer. Le film est par ailleurs très bien réalisé, qui plus est, ce qui le rend d'autant plus, quasiment d'autant plus irrecevable à notre époque. Le film joue pas mal aussi sur le voyeurisme du spectateur, en créant un personnage de voyeur, notamment, il y a un plan absolument magnifique où pendant... Ah ouais, non, alors là...
Ce qui est magnifique pour Ludo va être insupportable pour nous, c'est ça ?
C'est en toute honnêteté assez difficilement supportable.
Voilà, de donc temps, insupportable
voilà,
pour nous.
D'autant que pour les connaisseurs, il y a un plan qui rappelle assez fortement un des plans du mythique Mais qu'avez-vous fait à Solange, thriller italien particulièrement moite et tordu. Je n'en dirai pas plus, Pascal connaît. Voilà. Et non, il y a
en
un
vrai, elle a l'air non, perplexe non. Parce que souvent il opine, mais là il opine même pas. Donc
il opine du chef quand même.
Ce soir je suis fatigué, je ne dis pas forcément.
Tant que ça, non, non. Il veut pas opiner du tout. Bon, enfin bon.
Si, si, non, mais en plus, le film en question est sorti il y a peu de temps.
Mais qu'avez-vous fait à Solange ? Oui, il est ressorti, oui, enfin, ouais. Bon, non, après, ça va encore faire de la digression. Non, alors
c'est pour ça que j'interviens pas, je veux pas non plus.
Voilà.
Non,
alors ceci dit, il y a effectivement, entre autres, il y a un plan absolument magnifique d'un passager spectateur voyeur qui est effectivement le notable bien installé, cravaté, etc., visualisé derrière une vitre, mais en ombre, en train de voir du coin de l'œil avec sa culpabilité et en même temps une attraction très très forte, les choses absolument sordides qui se passent dans le wagon, et elles sont sordides. Bon.
Il est cravaté, mais ça n'est pas un notaire.
Non. Voilà. Et effectivement, suivant le schéma vraiment tracé, mais tu sais qui est à l'origine de ce schéma, en fait ?
Ah non, pas du tout.
Eh ben, en fait, la dernière maison sur la gauche, le dernier train de la nuit, et le deuxième dont je vais parler rapidement, la maison au fond du parc, eh ben, ça vient de... Ingmar Bergman. On revient à Ingmar. Je vais dire, l'origine, c'est la source, tout bonnement. C'est la source d'Ingmar Bergman qui compte cette histoire de jeunes filles massacrées et d'assassins qui vont tomber entre les mains des parents.
D'accord.
Ce qui est également intéressant, c'est que quand ce film ainsi que La Maison au fond du parc sont sortis, on a beaucoup gueulé, crapulerie, répugnant, fasciste, réac, misogyne. Et
Bah, à l'époque, peut-être j'aurais braillé ça, ça aussi, beaucoup, mais bon, vas-y, dis-nous, mais...
30 ans après, on s'aperçoit que les films, évidemment, sont pas nécessairement francs du collier, mais sont...
finalement, féministes, subversifs et...
consentantes.
Non. Alors, en tant que spectateur, subversif, assurément. En tous les cas, revendiqué comme tel, je ne citerai juste un extrait d'une interview d'Aldo Lado, le réalisateur, donné à l'excellent Francis Moury, qui est disponible depuis aujourd'hui sur le site de DVDrama. Je cite, donc je l'ai considéré dans Le Dernier Train de la Nuit et le considère encore aujourd'hui comme un film politique, critique de la bourgeoisie. Les personnages interprétés par Masha Merrill et Enrico Maria Salerno, donc le père chirurgien, sont au départ opposés par le scénario, puis ils se reconnaissent in extremis comme identiques. C'est le sens de la fin. Mon film illustre l'idée qu'être bourgeois, c'est vouloir et pouvoir assouvir sans risque ses pulsions, indirectement en se servant des autres. Et je pense que le fait que Bush utilise aujourd'hui des jeunes chômeurs, qui n'ont d'autre choix que de s'engager dans l'armée afin de survivre socialement pour attaquer l'Irak, relève de la même logique injuste.
Alors là, chapeau.
Non, attends. Alors...
Après, entre la... enfin, comment dire, le préambule, l'idée du film et ce que ça donne pour le spectateur, ben voilà, tu nous diras, allez le voir, et comme ça, on saura.
Voilà,
ça.
Alors ceci dit, il est bien entendu que la citation n'était pas dans le but d'anoblir le film, mais d'ouvrir le fait qu'il est... enfin, d'introduire le fait qu'il est effectivement ouvert à plusieurs lectures, mais qu'en tous les cas, c'est une expérience de spectateur qui est particulièrement dérangeante. Dans la foulée de ce dernier train de la nuit...
Et pour en terminer...
Ouais, non, mais j'y vais rapidement, t'inquiète pas.
Oh, bon, pour mon temps, bon, c'est pour toi.
Non, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, comme Ferdinando Baldi, dont tu te rappelles... Tu t'en rappelles, dis.
Avec émotion.
Nous en parlâmes lorsque nous évoquâmes Blind Man, le justicier aveugle, rappelle-toi. Blind Man et son convoi de 50 femmes qui se les fait ravir en permanence parce que c'est un béné.
Pauvre Blind Man. Oh.
Ferdinando Baldi, en 1979, signé Terror Express, La Ragazza del Vagone Leto. Donc.
La femme du tout petit train. Du tout petit wagon.
Voilà, c'est ça. Voilà, déjà moins volontairement politique et franchement plus cul d'ailleurs. Voilà. Et en 1980. Toujours disponible chez Neo Publishing.
Ah.
Donc le dernier train, c'est le 19. Est déjà disponible. Ruggero Deodato, l'auteur de Cannibal Holocaust et du dernier monde cannibale. Donc voilà, un mec qui fait dans la dentelle et qui
n'a pas peur d'assumer ses thématiques.
Qui aime les duels à fleurs émouchetées et les conversations de salon. Signé La Casa Sperduta nel Parco, à savoir la maison au fond du parc. Voilà, toute ressemblance avec
le perdu au fond du parc
intérieur serait purement fortuite. Dans lequel l'acteur de la dernière maison sur la gauche, à savoir David Hess, qui a fait une carrière quasiment là-dessus. Donc le grand maniaque de la dernière maison sur la gauche, c'est David Hess. Il va en faire d'autres. Hein. Il fera aussi La Proie de l'autostop, qui est une remise en cause du mal italien. Alors, genre par un de ces quatre. Toujours une musique de Morricone, d'ailleurs.
Bien.
Voilà. Perpètre ses forfaits. Évidemment, les femmes en sont à nouveau victimes.
Et d'aucune aurait. Je sais pas, mauvais caractère de dire ah oui, mais pourquoi, comment, tout ça.
Il embarque avec lui. Pardon. Giovanni Lombardo Radice, aussi connu sous le pseudo Mignonnet de Horror Man chez les amateurs.
Ça fait un peu catcheur, remarque. Du coup, ça rend plus gentil, voilà. Des trucs. Dont...
Et nos deux gaillards en train de... Voilà, en train de... Comment dire, j'allais dire d'enculer les mouches. Voilà.
En l'occurrence, il ne s'agit pas de mouches.
Et voilà.
Ça rassure les amis des animaux.
Dans un garage, tombe sur une petite bourgeoisie dorée américaine, en l'occurrence, qui va les inviter à une surprise partie. Dans un premier temps, poker party, puis disco party.
Poker party. J'avais un peu peur. Mais...
Qui va tourner de manière fort inattendue et pour le moins violente.
Oui.
Les passerelles entre les deux films existent, sont réels. Ruggero Deodato, lui aussi, revendique d'avoir fait un film de gauche, quoiqu'il corresponde fort peu aux critères du film de gauche actuel, parce qu'autant dire qu'il y a au minimum une scène qui est insoutenable, et qu'en bon artisan roué, il fait monter sa tension pendant une bonne heure et quart en se demandant « mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est ignoble, il va se passer des choses horribles, etc. »
Et elles se passent.
Elles se passent.
Elles sont plus suggérées ou non,
elles se passent à un certain moment.
Le problème, c'est que à chaque chronique, effectivement, je me demande, spectatrice potentielle que je suis, pourrais-je aller voir, nom d'une pipe, au moins un de ces films-là ?
Là, en l'occurrence, je pense que
c'est un révélateur. Ouais.
Et finalement, il semble bien, en général, que non. Mais bon.
Ça, on peut voir, pas voir.
Que non, comme aurait dit Laurent Ferré. Bon.
C'est un peu chaud. Hein. Non.
Bon.
Alors,
pour poursuivre.
Non, alors je vais conclure rapidement. La maison au fond du parc est, notamment de par sa photographie, je ne m'attarde pas sur le chef-op, pardon, mais il a fait, et c'est un routier du cinéma italien qui a fait des trucs très très bizarres, comme notamment Je suis un phénomène paranormal et obsédé malgré lui.
Tout s'explique alors, tout s'explique.
Et plus sérieusement, les films ont de réelles passerelles entre eux. Le Dernier Train de la Nuit est un meilleur film formellement et dans le propos. Mais s'il y a une chose qu'il faut souligner et qui participe totalement également de leur caractère dérangeant, c'est l'utilisation de la musique.
Ah.
La musique de la Maison au fond du parc est signée Ritz Ortolani, pardon, il se fait tard, compositeur de Cannibal Holocaust et grand amateur de contrepoint, qu'il a balance jusqu'à la nausée, jusqu'à l'écœurement, une petite comptine, y compris dans les moments les moins appropriés. Cindy, oh Cindy, etc. Ceux qui l'ont vu s'en rappellent. Et le
je sens que Christian a hyper envie d'aller voir tous ces films.
Et le Dernier Train de la Nuit s'offre un ornement totalement inattendu. Copinage morriconien oblige, une chanson de Denis Rousseau.
Ouais. Laquelle voilà.
À l'époque où il jouait avec les...
C'est dommage.
Je suis pas un exégète. Alors, ceci dit, je vais finir un registre totalement différent. Et registre cinéma en salle, tu demandais quel film je peux aller voir.
Absolument.
Eh bien, il te reste encore 3-4 jours, ma foi, pour te ruer à l'Éden, où passe encore The Host de Bong Joon-ho.
Oui.
Voilà. Qui nous avait filé de sacrés vertiges avec Memories of Murder. The Host, film de monstre peu commun et en même temps qui rappelle beaucoup de choses, est à mon sens moins réussi que Memories of Murder, mais ceci dit, il offre deux choses qui sont assez communes au cinéma coréen actuel, à savoir déjà une vision de la violence sociale et économique qui peut exister en Corée du Sud,
là, Pascal Opin,
et qui est commune notamment à Sympathy for Mr. Vengeance, dont j'avais dit le plus grand bien,
oh, bien sûr,
ainsi que Save the Green Planet que Pascal m'avait fait découvrir, et aussi une impression dominante, au-delà du pamphlet politique, d'absurde et de gâchis fondamental qui laisse quand même une impression durable. Donc ruez-vous, il n'y a plus que 4 jours au Havre, ça fait longtemps qu'il est sorti, mais il faut le voir.
Et pour les autres ailleurs, bravo Ludo et merci. François, tu as un petit morceau à nous mettre derrière ou on conclut juste comme ça sur les bravos pour cette chronique de cinémaviste.
Je voudrais goûter à ta bière.
What you want? what you want. My tonight, I say to do just what I want. My tonight, I say to do just what you want.